Vous êtes sur RTL. Heure. 18h, 20h.
RTL, bonsoir. Julien Cellier, Alexandre de Saint-Aignan et Cyprien Signy.
Allez, RTL, bonsoir, c'est parti, c'est votre émission. Bienvenue, on va s'occuper de vous avec la fine équipe, avec Cyprien Signy, Alexandre de Saint-Aignan, Louis Baudin avec les petits malins, Marc-Antoine Lebret, Alex de Vizorek. Bonsoir tout le monde.
Bonsoir.
Dans 10 minutes, Marc-Antoine, le Breaking News. Qui imitez-vous ce soir?
C'est moi qui t'appelle le malin, là, c'est ça?
Non, il y aura un Renault, toujours vivant. Enfin, j'espère.
Alex, la visioconférence, dans une demi-heure, quel est le programme?
Pas de Gérard Larcher aujourd'hui.
Ah,
voilà, bah, à un moment de temps en temps, il faut le changer aussi.
Tout arrive. Voilà. Pas d'Amélie Oudéa Castéra
non plus.
Comme quoi, vous savez vous renouveler.
Mais restez
vous.
Quand même, ça va être marrant.
Ça va bien quand même. Je vous dévoile aussi nos invités du soir. À 18h15, on se pose cette question. Quelle menace terroriste en France? Plan Vigipirate, vous le savez, rehaussé. La branche afghane de Daesh est derrière l'attentat de Moscou. Est-ce qu'elle cible aussi notre pays? Jean-Charles Brizard, président du Centre d'analyse du terrorisme, sera notre invité face à l'événement.
À 18h40, Eric Cantona sera notre deuxième invité, légende du foot, acteur, le voici maintenant, chanteur. Son album live sort vendredi. Interview vérité autour de la musique, de sa série télé sur M6 demain, de la France ou encore du foot évidemment.
Et puis après 19h, la deuxième heure de RTL Bonsoir avec une actrice si populaire, Alexandra Lamy, et le réalisateur Édouard Bergeon pour le film La Promesse Verte, mercredi au cinéma, un thriller sur la déforestation et sur le juteux marché de l'huile de palme.
Vous ne regarderez plus vos placards dans la cuisine de la même façon. On va aussi passer en cuisine, on va écouter de la musique puisque Shakira s'est confiée à Steven Bellery pour une playlist événement, et puis on va jouer avec le grand quiz de RTL Bonsoir, un week-end en thalasso au bord de la Méditerranée à gagner. Avant toute chose, le journal 10 minutes pour tout savoir.
RTL Bonsoir.
Et à la une, Alexandre.
Un coup de tonnerre aux Nations Unies. Le Conseil de sécurité exige l'arrêt des combats à Gaza. C'est une première. Un inquiétant violeur en Syrie recherché par la police à Grenoble. Et puis les premiers mots de Kylian Mbappé après la lourde défaite des Bleus ce week-end contre l'Allemagne.
Tendance météo pour demain, Louis.
Ah, c'est le retour de la pluie pour quasiment tout le monde.
Le journal, Julien Cellier, Alexandre de Saint-Aignan.
C'est une première depuis le 7 octobre, date du début du conflit entre le Hamas et Israël. Le Conseil de sécurité de l'ONU vient donc d'adopter une résolution qui exige un cessez-le-feu immédiat. Jusqu'à présent, toutes les résolutions de cessez-le-feu étaient bloquées soit par les États-Unis, soit par la Russie et la Chine, mais pas cette fois.
Bonsoir Karine Auton.
Bonsoir.
Vous êtes la correspondante de RTL aux États-Unis. Les combats se sont poursuivis toute la journée dans la bande de Gaza. Cette résolution votée donc à New York, elle appelle à l'arrêt des combats immédiatement. Ça veut dire que ça y est, techniquement, c'est peut-être le début de la trêve?
Oui, c'est en tout cas une trêve que réclame l'ensemble de la communauté internationale d'une seule voix pour la première fois. Pendant 5 mois et 3 semaines, le Conseil de sécurité n'avait jamais réussi à le faire. Alors, ce cessez-le-feu est tout de même limité, Alexandre, car les pays n'ont réussi à s'entendre que sur une trêve temporaire jusqu'à la fin du Ramadan, le 10 avril, dans un peu plus de 2 semaines donc. Mais déjà, la France, qui est membre permanent du Conseil de sécurité, a annoncé travailler à une nouvelle négociation pour demander un cessez-le-feu permanent cette fois.
Bon, est-ce que c'est contraignant pour l'armée israélienne et pour les combattants du Hamas?
Israël respecte rarement les textes votés à New York la concernant, et le ministre de la Défense israélien vient de déclarer de toute façon que son pays ne cesserait la guerre à Gaza qu'une fois les otages libérés. C'est leur position depuis octobre dernier. Le Hamas, lui, s'est dit prêt à un échange immédiat de prisonniers avec Israël.
Bon, mais le vote de cette première résolution qui exige un cessez-le-feu, ça montre surtout qu'il y a de l'eau dans le gaz entre Israël et les États-Unis.
Oui, Joe Biden a changé de position vis-à-vis de son allié israélien depuis quelques jours, hein. L'entêtement de Benjamin Netanyahou sur une éventuelle attaque de Rafah l'a poussé à hausser le ton. Il ne le protège plus sans condition avec son droit de veto à l'ONU, c'est prouvé. Alors la Maison-Blanche se défend de tout changement profond de paradigme. L'ambassadrice américaine a par exemple précisé de façon ambiguë que le cessez-le-feu à Gaza ne pourrait commencer qu'avec la libération d'un premier otage, certainement pour rassurer Israël. Mais cela n'a pas fonctionné. En signe de protestation, Israël vient d'annuler la visite de sa délégation, qui était en route pour Washington.
Merci Karine Auton aux États-Unis pour RTL.
En France maintenant, après l'attentat de Moscou revendiqué par l'organisation État islamique, eh bien le Premier ministre ministre Gabriel Attal promet de mobiliser des moyens exceptionnels pour lutter contre le terrorisme.
Et le chef du gouvernement était tout à l'heure aux côtés des militaires de l'opération Sentinelle, Garcin Lazare à Paris.
Rien que depuis janvier de cette année, déjà deux projets d'attentats qui ont été déjoués. Tous les premiers éléments qui sont à notre disposition attestent du fait que la branche de l'État islamique qui a revendiqué l'attentat de Moscou a développé plusieurs projets d'attentats visant des pays européens, notamment la France et l'Allemagne, ces derniers mois.
Bonsoir Thomas Proutot.
Bonsoir.
Alors concrètement, la sécurité va être renforcée dans l'ensemble des lieux publics.
Oui, 4000 soldats supplémentaires de la force Sentinelle sont mis en alerte. Aujourd'hui, ils sont 3000 à patrouiller dans les lieux publics les plus exposés. Cela veut dire qu'en fonction des événements, des rassemblements publics, encore plus de militaires seront mobilisés au cas par cas. Et cela également dans les centres commerciaux et autour des lieux de culte, précise Matignon. Là encore, en fonction de l'affluence ou des célébrations. Vigipirate, urgence attentat, c'est aussi une vigilance maximale sur le terrain via les capteurs des services de renseignement et bien sûr sur les réseaux. On le rappelle, aucun projet d'attentat de masse organisé, projeté depuis l'étranger, n'a été détecté en France depuis plusieurs années. Mais la propagande numérique de l'État islamique reste vivace et prend dans ses filets des Français présents sur le territoire, dont beaucoup de mineurs. Deux projets d'attentat inspirés par l'organisation djihadiste ont donc été déjoués depuis début 2024. Tous deux portés par des individus isolés et radicalisés, l'un contre une église, l'autre contre des cibles juives ou LGBT. Leurs auteurs présumés ont été interpellés par la DGSI.
Merci pour vos explications, Thomas Proutot pour RTL. La Russie refuse toujours de commenter la revendication de l'État islamique suite à l'attentat de Moscou. Trois suspects vont être placés en détention provisoire à la demande des enquêteurs. Les quatre assaillants présumés, eux, ont déjà été incarcérés. Le Kremlin refuse également de commenter les allégations de torture après la publication de vidéos et de photos sur les réseaux sociaux.
Les policiers sur la piste d'un violeur en série à Grenoble.
L'inquiétude monte depuis plusieurs jours dans les rues de l'agglomération, alimentée par des messages inquiétants sur les réseaux sociaux.
Bonsoir Maxime Lévy.
Bonsoir.
Donc un homme est activement recherché ce soir par les services de police. Il est soupçonné d'avoir commis au moins 8 viols et agressions sexuelles.
Oui, depuis plusieurs mois, agression après agression, certaines victimes donnent une même description. Elles dressent le portrait d'un homme violent qui viole ou agresse sexuellement dans les rues de l'agglomération grenobloise. Au total, ce violeur en série est suspecté d'avoir attaqué au moins 8 femmes. Elles le racontent toutes. La nuit est tombée, elles rentrent du travail ou d'une soirée entre amis. Alors qu'elles sortent les clés pour regagner leur domicile, certaines ont à peine le temps d'entrer dans le hall de leur immeuble qu'elles se font attaquer. Des agressions violentes en plein cœur de Grenoble, derrière la gare, dans le quartier Saint-Bruno, mais aussi en périphérie comme dans la commune voisine de Saint-Martin-d'Hères. Pour le moment, ce violeur en série est toujours activement recherché par la police. Il n'a toujours pas été interpellé.
Merci Maxime Lévy pour RTL. Les corps d'un père et de sa fille de 2 ans repêchés dans le lac Léman. Ils avaient été retrouvés morts hier après-midi par un randonneur en Haute-Savoie. C'est la piste du drame familial qui est privilégiée selon le procureur de Thonon-les-Bains.
Emmanuel Macron accueilli par des habitants en colère lors de sa visite en Guyane.
Le chef de l'État est arrivé sur place ce matin pour un déplacement qui doit durer 2 jours.
Alors, il était déjà venu en Guyane, c'était il y a 7 ans, en 2017, visite qui a laissé des mauvais souvenirs, visiblement, aux habitants.
Oui, il avait parlé de la Guyane comme d'une île. Il était reparti en disant « Je ne suis pas le Père Noël ». Bonsoir Thomas Després.
Bonsoir à tous.
C'est vous qui suivez Emmanuel Macron lors de ce déplacement en Guyane. Donc, depuis la dernière fois, les habitants n'ont pas vraiment l'impression que les choses se sont améliorées.
Oui, hein, c'est peu dire hein, que l'accueil aurait pu être plus chaleureux.
Moi, je vous demande, qu'est-ce que vous êtes venu faire en Guyane ?
On ne voit rien.
On ne voit rien.
Lors de la cérémonie protocolaire ce midi, les gradins installés sur la principale place de Cayenne sont restés désespérément vides, tandis qu'au marché aux poissons, un peu plus tard, les pêcheurs, eux, semblent carrément résignés.
Les gens qui sont sur le terrain, ils ne sont pas représentés. J'attends des réponses pour la Guyane.
Mais moi aussi. Ouais.
Le principal point de crispation au cœur de cette première journée, la lutte contre la pêche illégale par des navires étrangers dans des eaux françaises. Et le président de faire son mea culpa.
Si on se dit les choses en toute franchise, le sujet de la pêche ne s'est pas amélioré ces dernières années. On n'a pas réglé le problème de l'investissement pour renouveler nos bateaux.
Dans sa besace, le chef de l'État promet des navires cofinancés avec l'Europe, plus de contrôle et même des destructions de bateaux concurrents. De quoi décrocher quelques applaudissements. Même si tout le monde...
Je vous donne rendez-vous l'année prochaine.
Oui, oui.
Et rien, ça c'est parfait.
Attends désormais les résultats. Je vous donne rendez-vous
l'année prochaine. Thomas Després, envoyé spécial de RTL en Guyane. Et on vous retrouve, Thomas, après 18h30 dans RTL Inside, au centre spatial de Kourou. C'est là qu'Emmanuel Macron se rendra demain pour tenter de mettre un coup d'accélérateur au projet Ariane 6.
La suite du journal, Alex, est avec...
Le mea culpa de Kylian Mbappé.
On va aussi accueillir donc dans quelques minutes notre invité face à l'événement, Jean-Charles Brizard, spécialiste du terrorisme. Quel est l'état de la menace en France et quid de cette filiale afghane de Daesh? Est-ce qu'après Moscou, elle cible Paris? On va lui poser la question. On va aussi se détendre, rassurez-vous, puisque notre imitateur Marc-Antoine Lebray arrive et visiblement, il y a du Jean-Claude Van Damme également dans les parages. Et puis, belge, toujours, on accueillera Alex Vizorek après 18h30. Faut rester avec nous.
RTL, bonsoir.
Nancy. RTL, bonsoir.
Julien Cellier, Alexandre de Saint-Aignan.
18h10, la suite de votre journal dans RTL, bonsoir, avec les premiers mots d'un certain Kylian Mbappé après la défaite des Bleus samedi face à l'Allemagne.
2-0, souvenir douloureux dans le vestiaire à quelques mois de l'Euro. L'équipe de France de football va tenter de corriger le tir demain soir face au Chili. Kylian Mbappé est venu tout à l'heure pour répondre aux questions des journalistes, pour assumer son rôle, et il promet une revanche.
C'est quand même ma responsabilité de venir ici, encore plus après une défaite. Voilà, même si je pense que si on avait gagné, je serais pas venu. Parce que voilà, c'est deux matchs amicaux et comme j'ai dit, je voulais laisser la place à d'autres leaders de possiblement émerger. Mais là, en cas de défaite, il faut assumer la responsabilité de venir ici et c'est pour ça que je suis ici. Si on avait gagné 5-0 contre l'Allemagne, je me suis pas dit que voilà, on allait gagner l'Euro les doigts dans le nez. Donc en perdant, je me dis pas que on va être dépassé. C'est un avertissement. Le match, il a pas été bon. On va pas jeter tout ce qu'on a fait, la campagne de qualif qu'on a fait, la dernière compétition qu'on a faite. On va pas tirer sur les gars après seulement un match perdu. Donc on est toujours soudés, unis, on est toujours remplis de confiance, remplis d'humilité aussi, et on est prêt à avoir une réaction demain.
Voilà, Kylian Mbappé avec Nicolas Georgerot pour RTL.
Alex, c'est humilité qui vous a fait sourire.
On est rempli d'humilité venant de Kylian Mbappé, c'est une bonne vanne.
J'avais quand même l'impression d'entendre Marc-Antoine pour l'instant.
En tout cas, je viens de recevoir un message de Nicolas Georgerot sur WhatsApp, notre envoyé spécial à Marseille, qui m'envoie une photo du terrain, de la pelouse, un billard.
Ah, bah, comme toujours. Plus beau stade du monde, France-Chili.
Vélodrome.
Au Vélodrome demain.
Oui, ce sera au Vélodrome demain soir, coup d'envoi 21h.
Allez, quid du temps demain. Temps parfait pour jouer au football ou pas à Marseille demain soir?
J'aime bien l'humidité. Hein. Sinon, non, je crois que ça sera bien trempé. Il n'y aura pas besoin de l'arroser avant. Hein, parce qu'effectivement.
Tant qu'il ne nous abîme pas la pelouse, vous savez,
les pluies vont remonter du nord hein, entre cette nuit et demain. Résultat, du sud vers le nord, on va connaître un temps de plus en plus nuageux et pluvieux. Et en fin de journée, tout le monde aura vu passer cette pluie ou cette neige parce qu'il va neiger sur tous les massifs, les Pyrénées, le Massif central, les Alpes à partir de 1000 ou 1200 mètres et ça va durer. Et puis attention surtout aux pluies attendues du côté des Cévennes, ce sera pas très loin d'un épisode Cévenol, hein, donc prudence, du vent d'est fort jusqu'à 90-100 km/h sur le littoral méditerranéen, donc là ça va être très agité. Puis finalement c'est en pleine d'Alsace et sur la pointe bretonne, peut-être que les pluies seront les moins intenses demain. Les températures, alors demain matin on n'aura pas de gelée en pleine sous les nuages, 4 à 7 degrés, l'après-midi 8 à 12 degrés dans la moitié nord, 13 à 15 degrés dans le sud et en pleine d'Alsace.
Merci beaucoup Louis. Mesdames, messieurs, on accueille maintenant la voix. Marc-Antoine Lebray, notre imitateur adoré, s'est installé. C'est parti pour Lebray.
Et on est avec monsieur le président de la République. Après l'attentat de Daesh à Moscou, vous avez décidé de relever le plan Vigipirate à son niveau maximum.
Française ? Français. Oui. Nous sommes en pandémie.
Qu'est-ce que vous racontez là ? C'est pas du tout une pandémie.
Quand c'était la pandémie, je vous ai dit qu'on était en guerre. Oui. Donc là, comme c'est la guerre, je vais continuer à vous surprendre, à ne pas paraître répétitif, monsieur Saint-Aignan. J'ai décidé de rehausser notre niveau de sécurité pour deux raisons. D'abord, car l'État islamique nous menace aussi. Et ensuite, vous avez vu les photos des assaillants en fuite ? Ils étaient en Clio. Renault Clio. Comme si Poutine n'avait déjà pas assez le somme contre la France. Le monde traverse des conflits historiques. Je ne sais plus où donner de la tête, diplomatiquement parlant, entre l'Ukraine et la Russie. Israël et Palestine, et encore plus grave, Inès Reg et Natacha Saint-Pierre.
Ah, la guérilla de Danse avec les Stars, ça a beaucoup amusé Cyprien. On a eu le droit aux derniers événements toute la journée dans le bureau. Gérald Darmanin, vous vous êtes rendu dans la métropole lilloise aujourd'hui dans le cadre de votre vaste opération anti-drogue, PlaceNet XXL.
Tout à fait, monsieur Cellier, après Marseille, Lille. Le message envoyé est clair, nous traquons les dealers et ce quel que soit leur accent. L'opération s'est déroulée à différents endroits du territoire, comme le Nord, le Sud, mais aussi l'Île-de-France, Dijon, Lyon, bref. Si nos régions ont du talent, elles ont aussi pas mal de shit et de bœufs. Clairement, Jean-Pierre Pernaud aurait pu nous faire des reportages formidables dans son trésor, sur ce petit artisan de Dijon qui fabrique lui-même sa cocaïne en la coupant grâce à une recette de sa grand-mère, ou encore ce jeune agriculteur lyonnais qui fait pousser du cannabis de père en fils et qui fabrique de jolies pipes à crack en acajou.
Merci Gérald Darmanin. Le patron du groupe Renault a augmenté son salaire de 30%. Ah ouais. Et là, le chanteur Renault veut réagir.
C'est pas l'homme qui prend l'oseille, c'est l'oseille qui prend l'homme. Tintintin. Faut croire que la crise, bah, c'est pas comme Gérard Miller. Ça touche pas tout le monde. Franchement, j'ai honte de m'appeler Renault. Je vais changer de nom pour m'appeler Porsche. Au moins, eux, ils arnaquent que les riches et ils vendent des bagnoles qui me ressemblent. 15 litres au 100. Toujours debout, toujours ébout, même en kangourou.
Alors, un homme d'affaires australien veut organiser des JO sans interdiction de dopage pour des raisons scientifiques. Alors, on va rejoindre Nelson Montfort en direct des qualifications à Sydney.
Oui, mon cher Julien, je suis actuellement devant la ligne de départ du marathon. Les athlètes se mettent en position. Attention. Et c'est parti, et c'est fini. Une seconde. Record mondial, à vous les studios.
Merci Nelson Montfort. Allez, Jean-Claude Van Damme, à présent, à 63 ans, vous faites votre grand retour dans le cinéma d'action avec le film Darkness of Man.
Bonjour, au revoir. Si vous voulez un autographe, vous demandez à mon bras droit. Bah oh, il y a une licorne obèse. Ah non, c'est un rhinocéros. Sorry. Donc, oui, Jean-Claude, il repart dans les action movies. Ok, même s'il a 63 ans. Yeah! Le seul souci, c'est que j'arrive à un âge où j'ai plus besoin de faire le grand écart pour avoir les boules qui touchent partout. Bon, je vous rassure, mes fans, Jean-Claude, il assure toujours en karaté. Pour ça, il y a deux trucs essentiels. Je m'entraîne et surtout, j'affronte que des gens encore plus vieux que moi. Ouais. Ok, qu'est-ce que je disais ? La drogue, c'est mal. Ouais. Tu sais que moi, mon grand-père, on vient de lui diagnostiquer Parkinson. Du coup, on prie pour qu'il déclare aussi Alzheimer, comme ça, il oubliera peut-être de trembler. Ouais. C'est bon, ouais. Tu me l'avais.
On l'a. Merci beaucoup Marc-Antoine Lebray, Jean-Claude Van Damme. Ce soir, l'autre Belge, c'est Alex Vizorek qui va finir d'aller préparer sa chronique et qui arrive à un quart d'heure pour toujours plus d'humour.
Julien Cellier, Alexandre de Saint-Aignan et Cyprien Signy. RTL, bonsoir.
Et la suite, c'est maintenant. Quelle menace terroriste ici en France? On va s'interroger avec le spécialiste Jean-Charles Brizard, alors que le plan Vigipirate donc est renforcé.
La branche afghane de Daesh était derrière l'attentat de Moscou. Vise-t-elle notre pays? Les JO sont-ils une cible? On va poser ces questions à notre invité face à l'événement.
Et puis n'oubliez pas, dans un quart d'heure, on va accueillir un deuxième invité. Alors là, rien à voir, puisque c'est un Eric Cantona en très grande forme qui viendra nous rejoindre. Là tout de suite.
RTL, bonsoir.
Merci.
Julien Cellier, Alexandre de Saint-Aignan et Cyprien Signy.
RTL, bonsoir jusqu'à 20h.
Allez, RTL, bonsoir. On accueille maintenant notre invité face à l'événement. Le plan Vigipirate est rehaussé au niveau urgence. Attentat, c'est le plus élevé dans notre pays. La France se protège donc une fois de plus après l'attaque meurtrière lors d'un concert à Moscou. Plus de 230 morts. Alors, quel est l'état de la menace ici? Quelle est cette branche afghane de Daesh derrière la tuerie en Russie? Cible-t-elle la France? On va s'interroger maintenant avec un spécialiste, avec notre invité. Bonsoir Jean-Charles Brizard.
Bonsoir.
Vous êtes le président du Centre d'analyse du terrorisme. On a vu le Premier ministre Gabriel Attal, Gare Saint-Lazare, cet après-midi à Paris. Il annonce des moyens exceptionnels. Dans les faits, ça veut dire quoi? Davantage de patrouilles, de fouilles?
Oui, il y a un renforcement globalement de la sécurisation d'un certain nombre de lieux qui sont potentiellement effectivement à risque. C'est un renforcement aussi de la vigilance de l'ensemble des fonctionnaires qui peuvent être concernés par les menaces d'attentats. Voilà, c'est un rehaussement, c'est une posture en réalité qui est accrue en raison effectivement d'un risque terroriste qui est lui-même en pleine croissance. Bien sûr, ça intervient après l'attentat de Moscou, mais cette menace s'accompagne également de nombreux projets d'attentats qui ont été déjoués ces dernières années, ces derniers mois en Europe et qui provenaient de la même origine, à savoir l'État islamique en Afghanistan.
Mais la France, elle a été menacée directement ces dernières semaines, parce que Matignon évoque notamment deux attentats déjoués cette année.
Alors, on a un attentat qui a été déjoué en novembre 2022, qui impliquait un Tadjik et un Russe, un ressortissant russe, à Strasbourg. Et le projet était un projet d'attaque multiple à Strasbourg. Plus récemment, l'assaillant de l'attentat de Bir Hakeim à Paris s'était réclamé de la branche de l'État islamique d'Afghanistan, donc la branche afghane de l'État islamique. Il y a peut-être d'autres événements qu'on ne connaît pas, mais en tout cas, c'est les deux qui me viennent immédiatement à l'esprit. Et puis, au-delà de la France, c'est une organisation qui a ciblé également d'autres pays. L'Allemagne a été l'objet de 5 projets d'attentats ces dernières années en provenance de cette organisation, de la même manière que les Pays-Bas, la Suède et le Danemark, l'Autriche également. Donc, c'est une organisation qui effectivement aujourd'hui la plus active active. On a vu une montée en puissance progressive de cette organisation au fil des années, et elle est maintenant, estime en tout cas les services occidentaux, capable de projeter donc des opérationnels en Europe pour frapper.
C'est vrai que le grand public la découvre un petit peu, cette branche de Daesh, cette nouvelle branche de Daesh née en Afghanistan. Emmanuel Macron dit d'ailleurs, comme vous à l'instant, que la France a déjà été ciblée à plusieurs reprises par cette branche. Donc c'est une branche qu'on peut considérer comme active dans notre pays aujourd'hui ?
Et c'est en tout cas la branche la plus active de l'État islamique et la plus capable aujourd'hui de frapper l'Europe, oui. Mais donc c'est une organisation qui est montée progressivement en puissance, qui compte aujourd'hui entre 1000 et 3000 combattants en Afghanistan, avec plusieurs camps d'entraînement, des bases opérationnelles, un recrutement qui est en croissance également et qui provient principalement de l'Asie centrale. C'est la raison pour laquelle on retrouve beaucoup de Tadjiks, d'Ouzbeks, de Turkmènes dans les rangs de cette organisation, qui a multiplié également des efforts de propagande, hein, là, des outils de propagande très, très sophistiqués, comme l'avait l'État islamique central à l'époque en Syrie-Irak. Donc c'est une organisation qui effectivement est aujourd'hui la plus active, je vous le dis, de l'État islamique.
Le plan Vigipirate était déjà à un niveau élevé après l'attentat d'Arras. Est-ce que c'est l'autre menace aujourd'hui, des jeunes radicalisés seuls devant leur ordinateur? On sait qu'un ado de 14 ans a été interpellé à Lille ces derniers jours pour un projet là aussi d'attentat. On a la sensation que les islamistes arrivent à séduire des personnes de plus en plus jeunes. Est-ce que c'est un fait ou est-ce que c'est une sensation?
Non, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'en termes de proportion, aujourd'hui, on est à un niveau très important d'individus mineurs impliqués dans des actes terroristes, ce qui était le cas auparavant. On avait déjà des mineurs ces dernières années, mais pas dans ces proportions-là. C'est l'effet aussi d'une propagande qui est tout à fait, ciblée sur ces jeunes, qui utilisent des canaux également utilisés par les jeunes, je pense à TikTok, et c'est la raison pour laquelle on voit effectivement un certain nombre d'acteurs endogènes, puisque là on parle de menaces endogènes, des individus qui sont inspirés par la propagande et qui décident de passer à l'acte. On n'est pas dans le schéma de l'attentat de Moscou, qui est là un schéma beaucoup plus complexe, d'un attentat organisé et projeté.
On a eu 130 collèges et lycées visés par des menaces depuis 8 jours. Est-ce que là, on a affaire à des coups de téléphone totalement stupides ou est-ce qu'on a une potentielle menace? Ou est-ce qu'on n'en sait rien?
Je pense pas qu'on puisse parler de menaces avérées, puisque quand ils décident de frapper, ils ne préviennent pas à l'avance et surtout pas à cette échelle un nombre aussi important de d'établissements. Donc non, on est face effectivement plus probablement à des individus malveillants qui décident de cibler des établissements sans nécessairement avoir en tête de les frapper avec des moyens militaires.
Jean-Charles Brizard, on ne peut pas oublier le contexte. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a évoqué les Jeux Olympiques à venir aujourd'hui. Écoutez-le.
La France, parce qu'elle porte des valeurs universelles, est particulièrement menacée, notamment, bien sûr, pendant ces événements extraordinaires que vont être les Jeux Olympiques. Nous avons un système de renseignement fort heureusement extrêmement efficace. La police française, les gendarmes, les préfets, les services d'enseignement seront prêts. La France a la chance d'avoir des forces de l'ordre absolument exceptionnelles.
Voilà, les forces de l'ordre seront prêtes. Les JO, c'est dans 4 mois pour les groupes terroristes. Évidemment, c'est une cible.
Bien sûr. Par nature, c'est un événement mondial, la résonance internationale. Et c'est typiquement les cibles que recherchent les terroristes, les organisations terroristes, de surcroît lorsqu'elles veulent commettre un attentat d'ampleur, puisque c'est l'objectif, in fine, d'une organisation comme l'État islamique en Afghanistan. Donc oui, on ne peut pas écarter cette menace, bien au contraire. C'est les Jeux Olympiques représente une cible potentielle pour ces organisations.
Merci beaucoup Jean-Charles Brizard de nous avoir éclairé ce soir. Vous, le président du Centre d'analyse du terrorisme, vous étiez notre invité face à l'événement. Merci beaucoup.
Merci à vous.
RTL, bonsoir.
Et ne bougez pas, RTL, bonsoir, continue avec votre RTL Inside qui arrive.
RTL dans l'espace, on vous emmène à Kourou sur la base spatiale avec notre envoyé spécial avant la venue d'Emmanuel Macron.
La visoconférence aussi avec vous, Alex Vizorek. On parle de qui, de quoi?
Un peu de politique, mais apparemment il y a une bactérie mortelle au Japon.
Mangeuse de chair.
Ouais, j'ai vu arriver ça. Donc,
ça fait peur.
Je vais essayer de dédramatiser.
Alors, avec moi.
Ce serait bienvenu puisque Cyprien, depuis ce matin, est en boucle. Lui, l'hypochondriaque, sur la bactérie. On va aussi accueillir Eric Cantona dans quelques minutes, puisque la légende du foot est désormais chanteur maintenant. I love you so much and so forever. Restez avec nous. Call me Eric Dakin. Then I did all I could with all my friends to make you proud. RTL, bonsoir, jusqu'à 20h.
RTL, s'informer ensemble.
RTL, bonsoir.
Julien Cellier, Alexandre de Saint-Aignan.
Et juste avant l'autre Alexandre Vizorek, mais aussi un RTL Inside à Kourou sur la base spatiale. Les trois infos à retenir ce soir, Alexandre de Saint-Aignan.
4000 militaires supplémentaires mobilisés dans le cadre de l'opération Sentinelle. La France renforce sa sécurité après l'attentat qui a fait plus de 130 morts à Moscou, en Russie. Pour la première fois depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, le Conseil de sécurité de l'ONU adopte une résolution pour un cessez-le-feu immédiat pour le mois du Ramadan. Israël n'arrêtera la guerre qu'une fois les otages libérés, selon le ministre de la Défense israélien. Et puis Kylian Mbappé assume après le fiasco des Bleus face à l'Allemagne, ce qu'on a fait n'était pas suffisant. Je cite, il promet une réaction demain soir face au Chili.
Tendance météo demain, Louis.
Bah, préparez le parapluie. Ah oui, il va servir demain sur quasiment toutes les régions. On commence par la moitié sud, on finit par la moitié nord. Deux exceptions quand même, la plaine d'Alsace et la pointe bretonne, où a priori là vous aurez un petit peu moins d'averses. Attention aux fortes pluies sur les Cévennes, beaucoup de vent près de la Méditerranée, de la neige en montagne et des températures à peine de saison, 8 à 12 degrés dans la moitié nord, 13 à 15 dans le sud.
RTL Inside.
Il fait un peu plus chaud en Guyane. RTL Inside ce soir à Kourou, où Emmanuel Macron est attendu demain.
Déplacement 60 ans, quasi jour pour jour après le lancement par le général de Gaulle du projet de cette base spatiale. C'était en mars 64. Mais surtout à quelques semaines du décollage tant attendu d'Ariane 6, la nouvelle fusée européenne.
Allez, on va retrouver Thomas Després. Rebonsoir Thomas.
Rebonsoir à tous.
Le président en inspecteur des travaux finis, enfin presque finis, parce que le décollage de la fusée a presque 4 ans de retard. Qu'est-ce qui se passe à Kourou? Les pouces.
Alors non, pas vraiment, même si c'est vrai que tous ceux qui travaillent ici commencent un peu à trouver le temps long. Mais promis, d'ici cet été, si tout se passe bien, la nouvelle fusée européenne sera mise sur orbite. Philippe Lierre est le directeur du centre spatial de Kourou.
Il y a de l'impatience ?
Il y a de l'impatience, il y a du stress, mais un stress positif parce que ben, tout le monde sait ce qu'il aura à faire. Voilà, chacun connaît son rôle. On ne réussit pas un lancement par chance, hein. Il n'y a pas de chance là-dedans, c'est que tout est préparé, tout est répété et que chacun sait ce qu'il a à faire. Et je crois que c'est le cas.
En même temps, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont eu du temps pour se préparer. La première fois qu'on a parlé d'Ariane 6, c'était, tenez-vous bien, en 2014. Autant dire, il y a une éternité. La faute entre-temps au Covid, à la guerre en Ukraine et à plusieurs problèmes techniques.
Mais alors, on en est où maintenant? Elle est prête ou pas, la fusée?
Eh bien quasi, en tout cas les dernières pièces sont arrivées ici à Kourou il y a quelques semaines, acheminées depuis l'Europe par bateau, un cargo XXL, 121 mètres de long, fabriqué spécialement pour l'occasion. Et toutes ces pièces, elles sont en train d'être assemblées à l'horizontale dans un hangar, avant que le corps de la fusée ne soit déplacé dans quelques jours sur le pas de tir, comme l'explique Myrto Madelon, le responsable du site.
On fait juste venir le corps central avec des équipements spécifiques qui ont été développés pour Ariane 6. Puis en une heure de temps, on fait des mouvements de levage, poussé. On hisse l'ensemble et on arrive à la verticale.
Et ça sera quand?
Ça, c'est prévu dans quelques semaines, c'est prévu au mois d'avril.
Voilà, ça ce sera la dernière étape avant d'ultime test, en espérant que le lancement puisse se faire comme prévu avant la fin juillet.
Alors attendez, 4 ans de retard quand même, un projet qui dure depuis presque 10 ans, comment on explique ça?
Alors déjà, par différents aléas, je vous en ai parlé, le Covid notamment, mais aussi tout simplement parce qu'on n'est plus aussi performant qu'avant. Il n'y a qu'à voir l'allure de certains équipements ici à Kourou, on se croirait presque bloqué dans les années 90. Alors autant dire que la comparaison avec le géant américain SpaceX d'Elon Musk, elle n'est pas vraiment à notre avantage. C'est dur de rivaliser avec Elon Musk?
Bien sûr, c'est dur de rivaliser parce qu'eux, ils sont passés dans un process où vous tirez tous les 2 ou 3 jours, et ça devient quelque chose de routinier presque. Donc bien sûr, c'est dur.
On a l'impression d'être un peu plus des artisans à côté.
Alors, des orfèvres. On fait plus du sur-mesure. Effectivement, on n'est pas encore dans un mode où on est structuré pour tirer de façon mécanique tous les 3 jours. Quoi.
Pas encore, même si l'objectif, c'est ce que viendra en redire d'ailleurs demain Emmanuel Macron, c'est qu'à terme, la cadence des lancements à Kourou soit un peu plus soutenue, avec notamment plus de clients privés.
RTL Inside, signé ce soir Thomas Després à Kourou, en Guyane. C'est rare de pouvoir pénétrer dans cette base spatiale. Merci beaucoup pour ce Inside, Thomas.
C'est un peu la quand même.
Non, Ariane 6 pourra envoyer des satellites sur 2 orbites différentes.
Bah voilà.
Pas capable de
c'est
faire.
Pas Elon Musk qui va faire ça.
Voilà. Ouais. Ariane 6, je crois pas.
Allez, 18h34 minutes.
J'ai perdu, Klaus.
I love Montpellier, I love Brittany and Normandy and Deauville and Limoges. I love Limoges.
Je vous revois, mais je vous avais perdu.
Allez, vous l'attendiez, la voici, la visioconférence, les bonnes blagues d'Alex Vizorek. Alex, vous souhaitiez commencer ce soir avec François-Xavier Bellamy.
Oui, il était ce matin en interview sur une radio concurrente, enfin
si on est vraiment honnête, sur la radio concurrente. Et Sonia de Villers s'y est repris à 4 fois pour avoir enfin une réponse à sa question. Pour qui a-t-il voté au deuxième tour de la présidentielle en 2022?
Vous avez voté quoi en 2022 au deuxième tour?
Je vais pas, encore une fois, on va pas rompre le principe de l'isoloir. Moi, je n'ai pas voté pour Emmanuel Macron, c'est tout ce que je peux vous dire.
Oh. On va pas rompre le principe de l'isoloir, mais moi j'ai pas voté pour Emmanuel Macron. Bah disons qu'en matière de secret bien gardé, c'est un peu comme si ta femme te demande tu m'as trompé avec ma sœur, avec ma cousine. Alors ma chérie, je vais pas rompre le principe du couple et je peux t'assurer que je t'ai pas trompé avec ta cousine. Quant à moi, souvent les gens ils me demandent lequel est le plus sympa du trio d'animateurs de l'émission et je me refuse de rompre le principe du secret professionnel. Mais voilà, c'est ni Julien ni Cyprien.
Merci, merci beaucoup Alex.
Non pardon. Oula, Alexandre. Non. Je parlais du trio de l'équipe, l'équipe type, quoi. Pas les remplaçants.
Ah, d'accord.
Voilà, j'embrasse Marion au passage.
Bon, allez, la suite. Oui. On va passer à la suite parce que ça m'énerve. Ouais. Hier soir, vous avez également écouté l'eurodéputé macroniste Bernard Guetta.
Au grand jury, sur RTL.
Bien sûr.
Oui. J'ai écouté toutes les radios importantes. Bernard Guetta, qui a appelé à durcir le ton contre Vladimir Poutine.
Ça suffit. Il faut que la peur change de camp. Il faut l'inquiéter. Il faut qu'il y ait un malaise qui monte en lui.
J'ai les premiers retours du Kremlin. Apparemment, ce matin, c'était un malaise. Hein. Il a dit, oh là là, il a pris un coup sur la cafetière. Il a appelé tous les mecs de l'armée. Bernard Guetta. Non, on va pas se mentir, là, on n'a eu rien à claquer, Vladimir. Il a dit, le seul Guetta qui me fait vraiment peur, c'est David s'il vient mixer sous les fenêtres au Kremlin.
L'important, c'est d'essayer.
Mais oui,
bah oui. Bon, santé à présent. Oui. Je ne rigole pas du tout. Japon. Oh. La propagation d'une bactérie mortelle inquiète la population. Ça inquiète en France.
Pas d'inquiétude, tout est sous contrôle. C'est juste une petite bronchitette, a déclaré Michel Simès. Didier Raoult prétend qu'avec un peu d'huile de tournesol, ça se soigne très bien. Et Catherine Vautrin, ministre de la Santé, a déjà lancé l'impression d'affichettes de prévention qui seront placardées dans les aéroports. A priori, ça va rouler.
Les fameux flyers.
Les flyers.
Bon, apparemment, il s'agirait quand même d'une bactérie mangeuse de chair.
Eh oui. Et bah du coup, grosse inquiétude du côté d'Olivier Véran.
Pourquoi? C'est plus le ministre, rien du tout. Il n'est plus ministre de la Santé.
Non, c'est en tant que chirurgien esthétique. Bah, une bactérie mangeuse de chair, c'est quand même de la concurrence déloyale. Son business aujourd'hui, c'est la liposuction.
Oui, excusez-moi de vous déranger, c'est Gérard Larcher.
Ah merde, monsieur Larcher, qu'est-ce que vous voulez?
En fait, moi, une bactérie mangeuse de chair, ça m'intéresse. Où est-ce que je pourrais trouver ça?
Bon, j'avoue, Gérard Larcher, c'est un peu mon running gag avec l'intelligence artificielle. Je suis désolé, pardon.
Allez, retour en France. Oui. Après Marseille, Gérald Darmanin était ce matin dans le Nord pour lancer des opérations PlaceNet XXL à Lille et à Roubaix.
Oui, à Lille et à Roubaix. Alors j'espère qu'il ne va pas être trop dur à Roubaix, parce que franchement, sinon plus la drogue là-bas, ils vont s'en rendre compte qu'ils habitent à Roubaix. Et puis surtout, Darmanin, s'il cherche des gros pourvoyeurs et des vrais addicts, à Roubaix, c'est trop tôt. Gérald envoie tes équipes le dimanche 7 avril, vers 17h. Tu vas voir arriver 200 types à vélo. Ils viennent a priori de Paris. Susceptibles d'avoir des substances illicites dans le sang. Et coup de bol, les dealers les suivent en voiture et en camionnette. Cyprien, si vous voulez expliquer...
Bah, c'est ce que c'est Paris-Roubaix.
Voilà, bien sûr, il l'a eu tout de suite, il n'y avait pas eu le doute.
Ah, c'est le vélo, le sport.
Bah, bien sûr.
D'ailleurs, sport, justement, en raison des Jeux paralympiques, la rentrée scolaire pourrait être perturbée dans 80 écoles ou lycées.
Ah ouais, c'est les écoles à proximité des infrastructures sportives où auront lieu les Jeux. Elles seront donc difficiles d'accès. Et donc, ça permettra à tous les enfants de s'identifier aux athlètes paralympiques, puisque leur mobilité sera réduite. Et un lieu où il serait évident qu'ils puissent aller, on leur interdira d'accès. Humour engagé.
Ah, on voit ça. Vous terminez avec une info funéraire.
Ben oui, on l'a appris aujourd'hui. En fait, les funérailles de l'ancien ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, auront lieu ce mardi. À Paris, Frédéric Mitterrand, qui s'en est allé jusqu'au bout de ses convictions, puisqu'il est décédé durant le Ramadan, qui est quand même la période du jeûne.
Je vous ai laissé deux ans.
On va partir là-dessus.
Merci, Alex. Je ne sais pas si on a le droit.
Allez, vous allez l'expliquer, Cyprien.
RTL, bonsoir, continue avec toute la bande. On va accueillir un invité événement maintenant. Événement parce qu'il est rare dans les médias. Événement parce que son franc-parler est devenu une marque de fabrique. Eric Cantona va nous rejoindre dans une seconde. Il est désormais chanteur. Son album Live sort cette semaine. Il est aussi à l'affiche d'une fiction demain sur M6. On va même parler foot ensemble.
Et puis je vous rappelle aussi qu'après 19h, Alexandre Alamy et Édouard Bergeon seront nos grands invités avant La Promesse Verte, le thriller qui met en lumière la catastrophe de la déforestation.
Julien Cellier, Alexandre de Saint-Aignan et Cyprien Signy. RTL Bonsoir.
Julien Cellier.
RTL Bonsoir jusqu'à 20h.
Allez, RTL Bonsoir continue avec Steven Bellery, notre monsieur musique. Salut Steven.
Bonsoir à tous.
Nous accueillons maintenant notre invité. C'est une légende du foot, c'est un acteur, c'est un chanteur. Bonsoir Eric Cantona.
Bonsoir. The friends we lost, the time we waste.
Merci d'être avec nous, Eric. Cantona Sings. Eric, c'est le nom de votre premier album live, First Tour Ever, qui sort le 29 mars. Vous avez donné une série de concerts depuis plusieurs mois qui vous a mené de la France au Royaume-Uni. C'est un peu chez vous aussi là-bas. Vous avez tiré ce disque qui a été enregistré au gré et au fil des concerts, des titres que vous avez écrits, composés, interprétés évidemment.
Alors, cette tournée, effectivement, elle va reprendre un petit peu partout en Europe dans les jours qui viennent. Racontez-nous l'accueil lors des premières dates. Est-ce que vous avez été surpris? Est-ce que vous avez été heureux de voir que le public répondait présent, parce qu'il a vraiment répondu présent?
Et c'est pour ça qu'on fait ces choses-là, c'est pour avoir cette excitation, quoi. Donc cette excitation, il ne faut pas en avoir peur, quoi. Non, c'est positif, il faut s'en servir, quoi. Et après, on va jouer devant du monde, on prend l'énergie des gens. La musique, c'est un truc quand même, ça fait partie de l'être humain. Ça a plus de 2000 ans. On recherche ça, entrer dans un état de transe où on pleure, on crie. À un moment donné, l'humain a mis des notes, a dit que ça c'était une note, et a écrit de la musique pour qu'on puisse jouer ensemble. Mais moi je pense que la musique, c'est même avant l'être humain, la musique c'est la nature qui a créé la musique. Si on écoute vraiment bien les choses, le vent, la pluie, tout ce qui se passe dans la nature, si on veut vraiment, on la sent cette énergie-là. Si on s'allonge par terre, on la sent la vibration de la terre et des plantes sous nous. Si on embrasse un arbre, on la sent la vibration. Et je pense que la musique, il y a un truc comme ça. Il y a un gamin, il marche depuis quelques jours, vous le voyez, il commence à battre le rythme et tout. Il a jamais appris la musique. Il y a des vibrations qui nous transcendent. Comme chez les animaux. Une fois, on était sur un bateau. On a mis Maria Callas à fond. Et devant le bateau, est sorti une baleine, et derrière son petit. Et je suis certain, moi, qu'elle a été attirée par la voix de Maria Callas. Ça, c'est des moments magiques.
Et vous, la musique, elle avait ce pouvoir sur vous depuis toujours?
La musique, elle avait ce pouvoir sur moi quand je l'écoute dans mon salon. Donc en tant que fan, même quand je vais à un concert, je sais, parce que je vais voir que des gens que j'aime, les autres, je vais pas les voir. Et que, donc quand je vais voir des gens que j'aime, ils me transcendent, on rentre dans un autre monde. Donc oui, je suis dans un état un petit peu second. Et c'est ce que j'ai vécu de plus fort avec le sport, sur scène en tant que chanteur.
C'est-à-dire que vous retrouvez aujourd'hui sur scène l'adrénaline que vous avez pu ressentir quand vous étiez
sur le terrain. Oui, je ne croyais pas qu'un jour je la revivrai.
Vous la recherchiez, cette adrénaline aussi ?
Je la recherchais, je savais que ça allait être compliqué, que ce soit aussi intense, mais la musique, c'est très très proche, je dirais même aussi proche, quoi.
Et c'est pour ça que vous vouliez sortir un album
aussi fort, quoi, je veux dire.
Live en premier, pour capter ce truc, avec votre première tournée.
Et
comme
je
ça.
Me dis que celui qui va qui aime le live, il va... Oui, parce que quand je me retrouve à Manchester, finalement,
la première fois.
C'est bien quand on rêve, quoi. Oui. De se retrouver là-bas. Alors que j'ai jamais chanté, même dans un pub, ou au bal. Mais je commence par ma chanson, « You hate me, you love me, but I'm only judged by myself. I go to hell, I go to heaven, but wherever I go, I make my own heaven. » Voilà, vous m'aimez, vous me détestez, mais je suis le seul à pouvoir me juger. Voilà, j'irai au paradis, j'irai en enfer, mais où que j'aille, je créerai mon propre paradis. Et comme ça, tout le monde est tranquille, dès le départ, quoi. Et puis, je me suis rendu compte d'une chose. Cinéma, j'ai un micro, il est dans mon t-shirt. Je n'ai pas besoin de parler fort. Je peux parler doucement, comme ça, et tu vas m'entendre. Au théâtre, on a besoin de parler parce qu'il faut qu'on nous entende au dernier rang. Donc moi, je ne suis pas un chanteur d'opéra. Je ne suis pas un chanteur qui a besoin de se reculer par rapport au micro, parce que sinon, ça va péter les oreilles de tout le monde. Moi, je joue avec le micro et je chante. Le micro, c'était l'instrument. Et là, « You hate me, you love me. I'm only judged by myself. »
Et ça nous fait un petit truc. D'ailleurs, vous avez cueilli les gens sur cette tournée. Moi, j'étais venu vous voir au tout début de cette tournée. Vous aviez décidé de lancer cette tournée à Auxerre, c'est un peu chez vous. Dans la salle, il y avait un certain Giroud qui était là, votre entraîneur. Vous devez beaucoup mutuellement. Et il m'avait dit ceci.
J'ai les yeux mouillés et il m'en faut beaucoup. La dernière fois que je les ai eus pour un chanteur, c'était Léo Ferré. Je me suis laissé bercer. Déjà, je n'étais pas décidé à venir. Ensuite, j'avais dit peut-être je partirais avant la fin. Et puis là, je serais resté une heure de plus.
Oh, c'est gentil ça.
Ça vous touche?
Ah ouais. Eh oui, c'est papa Guillaume. Je l'adore. Et oui, et c'est lui qui m'a fait découvrir Léo Ferré.
En mettant une cassette dans le bus.
Dans le bus du club.
Et il paraît que vous avez traversé le bus pour vous dire, lui demander qui c'était.
Ouais, parce que je connaissais pas Léo Ferré. J'avais 15 ans, quoi. Et j'ai découvert Léo Ferré comme ça. Et puis j'ai eu la chance de le voir sur scène un jour. Théâtre Tourski à Marseille. Léo Ferré, c'est un maître.
Éric Antonin, on vous retrouve aussi à la télévision, dans une série sur M6, Brigade Anonyme, qui est librement inspirée d'une histoire vraie, pour le coup, celle d'un père qui constitue une brigade d'anonymes pour aller retrouver sa fille disparue alors que la police se bouge pas franchement. Ça vous a ému le courage de ce papa? C'est ce qui vous a poussé à dire oui?
C'est que je trouve que c'est une histoire forte. Les 72 premières heures pour retrouver quelqu'un qui disparaît. Et il y a des personnes qui disparaissent, je crois.
Un enfant toutes les 12 minutes.
Toutes les 12 minutes, un enfant ou un adulte. Ces premières heures sont cruciales. Sauf qu'il y a 9 disparitions sur 10, c'est des fugues. Donc quand ce papa va au commissariat, on lui dit c'est peut-être une fugue, il faut attendre 24 heures. Mais quand les 72 heures, les premières heures sont cruciales, vous enlevez 24 heures, il ne reste plus que 48 heures. C'est énorme, c'est-à-dire un tiers, quoi. Donc il monte une équipe et finalement il la retrouve. Et là, évidemment, il y a plein de gens qui appellent pour lui dire « Mais moi aussi, mon fils, il a disparu, ma fille, elle a disparu. » Et puis, il est pris par ce truc et il continue. Et aujourd'hui, il a retrouvé 130... Enfin, à une époque, c'était 130, il en a peut-être aujourd'hui retrouvé 150 ou 100, ou 200, je sais plus quoi.
Le nom de votre personnage, c'est Castaneda. Il élève seul sa fille. Vous êtes un papa poule, vous avez 4 enfants?
Moi, j'ai 4 enfants et ils sont tous magnifiques. Ouais. Et je suis un papa poule. Oui, je suis un papa poule. Et c'est vrai que moi, j'ai senti beaucoup d'amour de mes parents. Mais jamais je t'aime. Mais nous, on dit 15 fois par jour, je t'aime aux enfants.
En parlant de famille, vous êtes en train de réaliser un documentaire intime sur votre famille maternelle qui a fui l'Espagne de Franco. Pourquoi vous souhaitez raconter cette histoire?
Ils ont fui l'Espagne de Franco parce que mon grand-père était d'abord dans une milice anarchiste. Et puis il a rejoint l'armée républicaine pour combattre Franco. On hérite d'une histoire et on se replonge tous. C'est pour ça que quand on veut tuer l'origine, quand on essaie de détruire l'origine, c'est important de s'intégrer, mais s'intégrer avec son histoire. Pourquoi on doit faire abstraction de notre histoire? Non, il faut vivre avec notre histoire et vivre avec l'histoire du pays dans lequel on est aussi. C'est mixer les cultures, les influences. C'est ça qui donne la beauté et qui nous élève.
La chanteuse Aya Nakamura est traînée dans la boue, insultée depuis quelques jours parce qu'elle pourrait chanter lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Vous en pensez quoi, justement?
Vous savez très bien ce que j'en pense.
Bah, dites-le nous. C'est ce que vous venez de dire.
Tout ce que je viens de vous dire, là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise après ça? Je peux vous dire une phrase de Thomas Pesquet, qui était dans l'espace, qui a dit « De là où je suis, il est difficile de comprendre les frontières, la haine et les guerres. » Soit on décide de dézoomer, soit on décide de zoomer. Parce qu'à ce moment-là, les frontières d'un pays, c'est les frontières d'une région, les frontières d'une ville, et puis les frontières d'un quartier, puis les frontières de notre rue, puis les frontières de notre maison, et puis les frontières d'une pièce dans la maison, et puis finalement, on finit sur notre nombril.
Et le foot dans tout ça? Est-ce que vous regardez encore des matchs? Est-ce que vous regardez encore Manchester United de temps en temps? Ou alors vous êtes totalement passé à autre chose?
Je regarde les matchs qui m'intéressent. Première Ligue, Manchester, évidemment. Et je peux regarder un match pour un joueur que j'aime bien.
Et pour terminer, le foot français, vous avez quel regard sur le foot dans notre pays? Parce qu'il y a quelques semaines, vous avez dit, il n'a pas d'histoire, tout le monde n'a pas apprécié la réflexion.
Oui, mais je n'ai pas dit que le football n'avait pas d'histoire en France. J'ai simplement dit que la France, c'est le seul pays dit de football
où il n'y a pas deux grands clubs dans une même ville.
Où il n'y a pas deux clubs, pas grands clubs, deux clubs dans une même ville. Prenez l'Espagne. Vous avez deux clubs à Barcelone, deux clubs à Madrid, deux clubs à Séville, en Italie, à Rome, à Milan, à Vérone, à Turin.
Comment vous
expliquez ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un potentiel. Il y a un potentiel. Je n'ai pas dit que les fans de football n'étaient pas de vrais fans de football. Il y a des fans fous de football et qui connaissent très bien le football en France. C'est ce que j'ai dit. Et il faudrait écouter, parce qu'il y a des abrutis, évidemment, ils peuvent prendre ce qu'ils veulent. J'ai simplement dit qu'en France, à Paris, qui est une ville de 10 millions d'habitants, il n'y a jamais eu de club dans cette ville. Il y a Lagardère qui a essayé de créer le Matra Racing, il faisait 5000 spectateurs au stade, dans une ville de 10 millions d'habitants. À Londres, vous avez 7 clubs. Donc, qu'on ne me dise pas que la France est un pays de football.
Et maintenant, Kylian Mbappé part.
Oui, non, maintenant, on va parler de musique. Il fait de la musique, il joue de la guitare. Voilà.
Allez. Merci, Eric Cantona. Merci d'avoir été notre invité ce soir de RTL. Bonsoir. Cantona sings Eric, l'album live sort le 29 mars. I love you so much and so forever. We have been lucky to get all
your love. I love you so much and so forever.
Allez, RTL, bonsoir à la suite. Dans une seconde après le terrain de foot, le ring, le match des infos pour Brio d'idées, bataille d'anecdotes entre deux Alex ce soir, Vizorek face à Saint-Aignan. Et puis après 19h, Vizorek est très très chaud. Restez avec nous, Alexandra Lamy sera notre grande invitée. 25 ans après Chouchou et Loulou, vous allez la découvrir dans un tout autre registre, en maman engagée à bout de souffle dans un thriller écolo sur la déforestation. À tout de suite.
Julien Cellier, Alexandre de Saint-Aignan et Cyprien Signy.
RTL bonsoir.
RTL bonsoir.
And round number one.
Allez, le voici, le match des infos pour Brio Dîner. Duel Versailles-Belge entre les deux Alex, Saint-Aignan contre Vizorek.
Et alors qu'Emmanuel Macron est actuellement en Guyane, on en parlait tout à l'heure, notamment pour visiter le centre spatial, Alexandre de Saint-Aignan, vous avez décidé de nous emmener dans l'espace.
Ah oui, mon info, c'est que la Lune a une odeur apparemment bien particulière. Alors, c'est évidemment très compliqué de pouvoir sentir l'odeur de la Lune. Déjà, il faut y aller. Ouais. C'est pas facile. Et puis, une fois qu'on y est, pas question de mettre le nez dehors, puisque si on enlève son casque, on meurt. Comme il n'y a pas d'oxygène, vous allez me dire comment est-ce qu'on peut savoir que la Lune a une odeur.
Bien, alors, comment ?
Les astronautes qui le racontent, notamment Neil Armstrong, qui parle de l'odeur de la poussière de la Lune sur ses vêtements quand il est rentré dans le module sur la Lune, après avoir marché sur la Lune. Apparemment, ça se rapproche de l'odeur de la poudre à canon. Il y a même un scientifique français qui a tenté de recréer cette odeur que les visiteurs peuvent aller sentir quand ils vont visiter la cité de l'espace à Toulouse.
Ah, c'est génial. Ah, bon, c'est une info qui ne vous concerne pas du tout.
Alors
du
moi, qui suis anosmique, ça m'est égal.
Du coup, voilà. Allez-y, Alex, tentez de concurrencer votre prédécesseur.
Il a hésité aujourd'hui à venir faire sa chronique, parce que c'est la journée mondiale de la procrastination.
Ah, j'adore.
Un mot compliqué pour dire qu'on remet au lendemain ce qu'on pourrait faire le jour même.
Et info pour briller, vocabulaire. Connaissez-vous la précrastination?
Ah, c'est l'inverse.
Eh oui, ça existe aussi. Évidemment, c'est celui qui a déjà fait hier ce qu'il aurait pu faire aujourd'hui.
C'est tout moi.
Eh ouais. c'est Monsieur Parfait, celui qui a du temps à perdre. Hop, il y a une assiette, il fait la vaisselle. Il n'attend pas qu'il y en ait une deuxième. Vous voyez, c'est comme ça. Toujours, tout est prévu à l'avance. Mais il est tellement parfait qu'il fait des choses que tout le monde déteste. C'est-à-dire celui qui se lève dans le train avant pour être à la poire. Ça, c'est un précrastinateur très, très énervant. Ça arrive. Ou celui qui appuie 117 fois sur le bouton de l'ascenseur. Parce qu'il se dit ça va arriver plus vite. Mais alors qu'une seule fois, c'est efficace. Voilà. Donc, on le déteste, mais quand même, on est content quand il fait les trucs à notre place. Donc, il existe, ce précrastinateur. Voilà, moi, je suis plutôt dans le procrastinateur.
Oui, l'autre
mais c'est
branche.
Sympa de savoir qu'il y a un yang si je suis le ying.
Mais c'est vrai que tu peux facilement impressionner tes amis en disant toi tu es précrastinateur.
Ouais, c'est un bon mot effectivement. Alors, ou alors sois précrastinateur, jeune homme. Va vider le lave-vaisselle. Voilà. Parce qu'il est l'heure de se mettre à table à 18h57 minutes. Vous votez pour quel Alex, Louis, ce soir?
Ah, j'aime bien la lune quand même.
Bah oui.
L'odeur de la lune.
Moi, je vais voter pour la précrastination du coup.
Ouais. Damien, le réalisateur bien-aimé.
Avec ce Vizorek.
Oh oui.
Moi, je crois que j'ai voté pour la lune.
Match nul.
Un match nul. Je ne laisse jamais gagner les Belges.
J'ai l'impression que c'était contre moi.
Allez, RTL, bonsoir. Reviens avec nos grands invités. Juste après 19h, Alexandra Lamy et le réalisateur Édouard Bergeon. La promesse verte, thriller sur la déforestation, sort en salle cette semaine. On va aussi accueillir notre spécialiste environnement. On va vous expliquer pourquoi, quand vous achetez des produits transformés au supermarché, vous contribuez à une catastrophe écologique à l'autre bout du monde. Il y aura aussi les dessous de l'actu au concours des meilleurs apprentis de France. On va cuisiner des nouilles de riz dans la guinguette d'Angèle et puis playlist événement de Steven Bellery avec une interview, s'il vous plaît, de Shakira.
J'adore.
Il y aura aussi un week-end en Thalasso à gagner. Ce sera dans le grand quiz de l'émission. Vous restez avec nous.
RTL bonsoir jusqu'à 20h. Voiturez. RTL.
Il est 19h. Et voici maintenant votre 360 secondes pour tout savoir. C'est avec vous, Aude Vernuccio, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Une semaine après Marseille, nouvelles opérations Place Nette en version XXL à Roubaix, dans le Nord, où le ministre de l'Intérieur s'est rendu ce matin. Et simultanément à Dijon, en Côte d'Or, au total 187 interpellations. Raphaël Vantard, vous avez suivi le dispositif à Dijon cet après-midi, et notamment à Chenôve, où le trafic de drogue s'est intensifié ces dernières semaines. semaine.
Commissariat de Dijon, 14h. Face aux policiers et aux gendarmes rassemblés, le directeur interdépartemental de la police nationale, Bruno Gallo, prend la parole. Il lance officiellement l'opération PlaceNet XXL.
Le but étant de reprendre le terrain, de casser les points de deal dans la durée. Hein, jusqu'à présent, avec nos seuls moyens, on ne peut pas toujours le faire. Donc prenez votre temps, fouillez bien. Merci à tous, bonne chasse. Vous avez aimé PlaceNet, vous allez adorer Super PlaceNet.
Face au micro et caméra, les mots, le discours est volontairement galvanisant. Quelques minutes plus tard, direction une tour, un point de deal de Chaneuve en banlieue de Dijon. Avec les chiens, les policiers fouillent. Les habitants, eux, apprécient différemment cette énième descente de police.
On les voit, on les entend. Des fois, il y a les motos, il y a un peu tout. Les fusillades et tout, on a peur qu'on ne sait pas plus mal qu'il y ait quelque chose comme ça.
Je ne veux pas dire que c'est un coup de com', c'est pas ça, mais bon, revenez dans 8 jours et puis vous verrez.
Moi, je sais qu'avant ce soir, il y en aura là.
Ce soir, de nouvelles fouilles, de nouveaux démantèlements de points de deal vont avoir lieu dans d'autres quartiers de Dijon. Ces opérations vont durer au moins 3 semaines.
Merci Raphaël Vantard à Dijon pour RTL.
Après l'attentat qui a fait 137 morts à Moscou, attaque revendiquée par Daesh, la France relève le niveau de son plan Vigipirate.
Annonce d'Emmanuel Macron ce matin, la France en alerte maximale à l'attentat à 5 mois des Jeux Olympiques. 4000 militaires supplémentaires vont être placés en alerte, soit 7000 au total. Le chef de l'État qui annonce que plusieurs projets d'attentat ont été déjoués.
Ce groupe qui est impliqué, semble-t-il, dans cet attentat avait conduit ces derniers mois plusieurs tentatives sur notre propre sol. Donc c'est une mesure qui est cohérente compte tenu de la revendication de cet attentat et du fait que ce groupe a plusieurs fois tenté de toucher le sol français.
Bonsoir Thomas Proutot.
Alors d'abord, une série d'interpellations en Alsace en novembre 2022. Un ressortissant tadjik et un russe d'origine tchétchène avaient été mis en examen pour un projet d'attentat visant Strasbourg, dont les préparatifs étaient heureusement peu avancés. D'après l'enquête, ces deux hommes étaient directement en lien avec l'État islamique au Khorassan, le groupe qui a revendiqué l'attentat sanglant de Moscou. Pour ce qui est des autres projets déjoués en 2023 et en 2024, on en compte 5, tous inspirés par l'État islamique originel, si l'on peut ainsi dire, celui qui est né dans la zone irako-syrienne. À chaque fois, une cible et l'acquisition d'une arme aboutie ou presque aboutie. À ces menaces, il faut ajouter la multiplication d'interpellations de mineurs ultra-radicalisés par le biais souvent d'applications en ligne qui les font ensuite entrer en contact avec de vrais et dangereux recruteurs. Ils sont une vingtaine à avoir été mis en examen ces derniers mois.
Décryptage des propos du président signé Thomas Proutot. En Russie, pour la première fois, Vladimir Poutine déclare ce soir que cet attentat a bien été commis par des islamistes radicaux avant d'ajouter que cet attentat participe à des attaques du régime de Kiev contre la Russie. Il refusait tout à l'heure de commenter cette attaque tant que l'enquête n'était pas terminée. On sait que 3 suspects vont être placés en détention. 3 suspects de plus puisque les 4 assaillants présumés de l'attaque ont déjà été incarcérés.
L'autre titre ce soir, c'est cette résolution à l'ONU votée à la quasi-unanimité pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza.
14 voix pour et une abstention des États-Unis qui regrettent que la libération d'otages israéliens ne soit pas pensionné en échange de la trêve. Israël déclare que la guerre ne s'arrêtera pas tant que tous les otages ne sont pas relâchés par le Hamas. Olivier Jaoui est le cousin d'Ofer Calderon, ce père de famille toujours aux mains du Hamas.
On a une résolution qui exige la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages. Si on s'orientait vers une trêve, bien sûr, ça donnerait de l'espoir. Mais on ne sait pas en fait si ça va pousser à des nouveaux pourparlers. S'il y a une trêve, c'est que le Hamas s'engagera à libérer les otages. C'est une condition que met la résolution. Hein. L'inquiétude quand même, à aucun moment jusqu'à présent, il a vraiment été envisagé de libérer les hommes, les adultes. Donc c'est plutôt l'inquiétude qui domine, puisque régulièrement, le Hamas ou le djihad islamique annonce la mort d'un otage sans qu'on sache trop comment.
Témoignage recueilli par Valentin Boisset. Le Hamas exprime sa volonté ce soir de relâcher des otages en échange de cette trêve. L'ONU met en garde Israël. Ne pas appliquer le cessez-le-feu serait impardonnable. La France, quant à elle, demande que ce cessez-le-feu soit total après le ramadan.
19h05 sur RTL. Très bon démarrage pour le bonus réparation. Depuis son lancement en novembre, il a fait économiser plus de 2 millions d'euros aux Français.
Un bonus de 6 à 25 euros déduit de la facture chez le cordonnier ou le couturier. Initiative qui incite à réparer au lieu de jeter. Elsa Chassagnette est la responsable de ReFashion, chargée du dispositif.
Le bilan est très positif. On est rendu à 250 000 réparations avec bonus. Entre fin décembre et aujourd'hui, on a multiplié par 10 le nombre de réparations. On a déjà doublé le nombre de boutiques qui se sont labellisées. Le bonus moyen, il représente 36% du prix de la réparation. Donc on a des consommateurs qui viennent chez leur cordonnier ou chez leur retoucheur, qui à la base avaient prévu de faire une seule réparation et puis finalement ils se rendent compte qu'une deuxième, ça ne serait pas du luxe. Le bonus vient vraiment acter le fait que c'est indolore pour eux d'un point de vue budget de faire réparer d'autres choses.
À propos recueilli par Mathilde Piquet.
Après la polémique sur le prix des transports publics à Paris pendant les Jeux Olympiques, la région Île-de-France concède quelques efforts.
Île-de-France Mobilité annonce des navettes spéciales pour se rendre sur certains sites difficiles d'accès. Nathan Bocard, ces navettes, elles seront gratuites ?
Oui, gratuites pour les spectateurs, bien sûr. Elles permettront en fait de faire les derniers mètres jusqu'aux sites olympiques les plus éloignés des gares. Un exemple, le Golf National. Il est dans la ville de Guyancourt, dans les Yvelines. Aucun train ne passe par là.
Ah, mais je vous confirme. Ouais.
Donc il y aura un bus, je vous rassure, Cyprien, un bus au départ de la gare de Saint-Quentin.
Pour l'instant, il n'y a pas de bus.
Et là, il vous déposera jusque devant le Golf.
Très bien.
Au total,
lui, il va en 4x4, lui. Voilà. Il n'y a pas ce problème.
C'est pas un problème pour vous. Pour
t'as le choix. Hein, mais... je vous laisse, pardon.
Au total, pour ce qui ne concerne pas Cyprien, ce sont 10 lignes hein, qui seront mises en place. 300 bus au total. Objectif, un départ par minute au moment des compétitions. Ça n'est pas tout. Île-de-France Mobilité a aussi donné quelques précisions sur un autre type de navette, celle pour les personnes en situation de handicap. 150 bus seront réservés aux spectateurs en fauteuil roulant. Ils partiront de 8 gares parisiennes, là aussi pour aller jusque devant les sites olympiques. Par contre, ça n'est pas gratuit, ça coûte 4 euros le voyage et il faudra réserver à l'avance.
Merci pour ces précisions, Nathan Bocard. En football, la France affronte demain soir le Chili en match amical. Le capitaine Kylian Mbappé dit ce soir qu'il comprendrait si le public du Vélodrome le sifflait. L'attaquant parisien qui se prépare aussi à affronter l'OM avec son club, ce sera dimanche en Ligue 1.
Une réaction, Cyprien ?
Je pense qu'on va siffler Mbappé et que Alexis Sanchez, l'attaquant du Chili, sera applaudi.
Ah, il va être acclamé. Oui, El Niño Maravilla. Merci beaucoup, Aude, à tout à l'heure à 20h. Juste avant la météo de Louis, je vous rappelle que nos grands invités patients, ils vont arriver, Alexandra Lamy, l'actrice aussi populaire, et Édouard Bergeon, le réalisateur, parce qu'on va parler déforestation, c'est le sujet de leur nouveau film, un thriller écologique, La Promesse Verte, dans quelques jours. Et puis ne manquez pas aussi, ça va arriver dans une petite demi-heure maintenant, une playlist événement de Steven Bellery, puisqu'il a interviewé Shakira.
Oh la chance.
Vous voulez garder Shakira pour la météo,
ah oui,
Louis Baudin.
Ça me va bien, moi.
Pourquoi pas ? Alors, on y va. Il faut s'attendre à quoi demain ?
Avec pourtant la pluie qui fait son retour. Déjà ce soir, là, elle commence à s'intensifier autour du golfe du Lion, près des Pyrénées. Tout cela va progresser du sud vers le nord en cours de nuit. Résultat, demain matin, beaucoup de pluie déjà, des Pyrénées à l'Île-de-France, autour du Massif central, près de la Méditerranée. Et ça va durer toute la journée. Deux exceptions, la pointe bretonne et la plaine d'Alsace, où là, ces pluies arriveront de manière un peu plus tardive. Avec un peu de chance même, vous passerez au travers. Mais attention surtout dans le sud-est où ces pluies vont s'intensifier. Risque d'épisodes Cévenoles du côté des Cévennes justement. Beaucoup de pluies accompagnées de vent, 100 km/h. Et la neige qui va revenir en montagne des 1000 ou 1200 mètres sur les Pyrénées, l'Auvergne ou encore les Alpes. Là aussi, ça va durer une bonne partie de la journée. Puis les températures, elles bougent assez peu. Alors le matin, sous les nuages, il n'y aura pas de gelée en pleine, 4 à 7 degrés. L'après-midi, 8 à 12 degrés dans la moitié nord, 13 à 15 dans le sud et également en pleine d'Alsace.
Merci Louis.
RTL, bonsoir. Les dessous de l'actu.
Allez, RTL enfile maintenant son tablier pour vous faire découvrir les dessous du concours des meilleurs apprentis de France version charcuterie traiteur.
Vous connaissez sans doute les meilleurs ouvriers de France avec leur col de veste tricolore. Eh bien, c'est la même chose, mais version apprenti. Chaque année, ce sont 20 jeunes de 16 à 20 ans qui s'affrontent en finale pour décrocher le titre de MAF meilleur apprenti de France. Bonsoir Pierre Herbulot.
Bonsoir.
Vous avez réussi cette année à vous inviter dans le jury du concours des apprentis charcutiers traiteurs. Il s'agit de faire de la dégustation. Je vous fais confiance là-dessus. Comment ça se passe ?
Alors, moi je suis arrivé après la bataille en salle de dégustation, les pieds sous la table, une fourchette, une assiette. Les candidats finalistes du concours, eux, ont bossé deux jours entiers pour faire trois pièces imposées. Une galantine de porc, citron, gingembre, un entremets terre-mer et une tarte chocolat avec un S.
Dans le jury, une quinzaine de charcutiers traiteurs, beaucoup de meilleurs ouvriers de France, mais il y avait aussi une pâtissière et deux journalistes, dont moi. Et donc, on s'est partagé les dégustations, parce que faire 3 fois 20 pièces, bonjour, à la fin, c'est difficile de survivre. Alors moi, j'avais la galantine et j'en ai mangé pendant 2 heures.
C'est quoi une galantine ?
Alors, je vais laisser l'expert vous le dire. Benoît Belgi, charcutier traiteur dans les Deux-Sèvres, en Nouvelle-Aquitaine, un habitué des concours qui m'a pris sous son aile pour les dégustations.
Une galantine, c'est une farce de porc, une farce fine, donc avec un triage de viande très méticuleux. Et après, on l'aromatise avec des alcools, soit... Alors après, on peut mettre des fruits, on peut mettre du foie gras, on peut mettre plein de choses comme ça. La galantine, c'est le produit de Noël, c'est le produit festif.
Vous avez bien de la chance, hein.
Ouais.
Ça me fait rêver, cette galantine-là. Donc là, il a bien choisi, il est bien tombé, Pierre Arbulot. Donc là, c'est le moment de déguster, de noter. Les candidats sont là ou pas pendant que vous dégustez ?
Alors non, pour garantir l'impartialité du jury et de la dégustation, on n'a que des numéros et donc on goûte les 20 produits avec une petite feuille de notation. J'en ai une ici, tiens, je vous la montre. Le candidat 1, le 2, le 3, etc. C'est environ 5 minutes par dégustation.
On sent un goût sucré et on sent bien le gingembre, mais on n'a pas ce goût fort du gingembre.
C'est autre chose.
Je suis agréablement surpris. Et là, on est sur un autre... C'est la 4e dégustation. Ça me plaît. En goût, ça me plaît. Par rapport aux contraintes avec citron et gingembre, il est présent, on le voit, mais il n'emporte pas, il parfume. Moi, j'aime bien.
Ouais, j'ai bien aimé aussi. Je lui ai mis 16 sur 20.
Oh, c'est bien. Ouais, c'est une super note, ça, 16 sur 20.
Oui, alors c'est Benoît Belgi qui m'a expliqué qu'il ne fallait pas hésiter à être discriminant, en fait, mettre de bonnes notes quand c'est bien et des très mauvaises quand c'est raté. Oh. Ça évite d'avoir un ventre mou avec plein de candidats qui ont entre 10 et 12. Bon, après, ce n'est pas le seul vote du concours. Avant que j'arrive, quand les candidats travaillent, ils sont déjà notés par un premier jury qui juge leur technique, leur organisation, la propreté de leur plan de travail. Ensuite, il y avait cette fameuse dégustation. Et une dernière de notes, c'était ce matin, sur la présentation de leurs pièces sous forme de buffet, ça c'est très important pour les traiteurs. Après avoir mis mes propres notes, j'ai accompagné Sylvie Barbet, charcutière à Louviers dans l'Eure.
Je pense, je réfléchissais, mais je pense que ça va être 16.
D'accord.
Il faut s'imaginer que là, c'est une mise en situation qui peut les amener sur un cocktail d'une demande client et voilà quoi, c'est un tout. Hein.
Alors il y a des coefficients pour chaque évaluation, tout ça part à la moulinette. À la fin, vous avez une note globale par candidat. Le jury décide ensuite, avec ses notes, s'il y a des apprentis qui sont dignes du fameux titre de MAF, meilleur apprenti de France.
Et alors, résultat des courses, est-ce qu'il y a des nouveaux MAF charcutiers traiteurs ?
Alors il y en a eu 5.
Ah, ça fait
deux
bizarre,
filles et 3 garçons.
Alors, c'est
pas ce son-là, c'est pas grave, on l'écoutera après. Voilà, c'était les applaudissements. Je voulais vous faire écouter ça parce que, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a les familles qui sont là pour applaudir les nouveaux MAF. Donc, il y en a 5, 3 filles et 2 garçons. Je vais vous citer Grégory Aiguin, 19 ans, apprenti à Biarritz chez Carlier Traiteur. Je vous en parle parce qu'il a aussi reçu le prix de la presse, parce que j'ai remis un prix avec ma consoeur. Et voilà. Donc, il a eu les 2 prix en même temps. Il était tout content à la fin. Je vais vous le faire écouter. Un peu timide encore, il n'a pas l'habitude des interviews.
Ouais, ça fait bizarre, je réalise pas tout à fait encore, mais je me suis bien entraîné pendant plusieurs mois depuis les premières sélections. Donc ça fait plaisir de voir que son travail aboutit.
Et voilà, c'est l'un des meilleurs de sa génération. C'est ça que ça veut dire, ce col-là. C'est un pont d'or pour ensuite le meilleur ouvrier de France, le
MOF. Ah oui, il y a des passerelles.
Et le fameux col tricolore.
Vous avez quand même un métier difficile. Ouais, vous avez mangé combien de calories aujourd'hui, Pierre ?
Beaucoup, je sais pas. Beaucoup trop.
Vous allez jeûner ce soir,
c'est ça ? Non, même pas. J'ai un petit dîner au restaurant, mais demain. Quelle vie.
Vous, Alex, aussi, vous avez déjà été jury dans des concours culinaires comme ça.
J'ai fait le meilleur croque-monsieur.
Ah ouais.
Alors, j'étais avec Guylaine Arabian, et donc moi, j'étais gentil, je disais que c'était bon. Et Guylaine a dit, mais non, c'est pas bon, ça va pas ensemble.
Ah oui ? Mais vous voyez les photos de certains croque-monsieur, il y en a, ils donnaient pas envie. Hein.
Et quand on sort de ces concours-là, vous confirmez, on est un peu... Écœuré ? Non.
Bon, après, moi, ce qui est intéressant, c'est de voir la différence entre les candidats. Donc, il y a aussi ce côté notation qui rend le truc un peu focus. Mmh. Mais oui, on n'a plus envie de remanger d'une galerie.
Ouais, voilà. Mais le vrai truc, c'est de ne pas être trop gourmand.
C'est-à-dire que vous mordez une ou deux fois dans le croque-monsieur, mais comme il y en a 8 à goûter.
Il faut y aller mollo, en quelque sorte. Donc là, après le charcutier traiteur, on aura une recette végane tout à l'heure pour équilibrer un petit peu. Voilà, des nouilles au sésame, des nouilles de riz avec notre Angèle nationale dans les quart d'heure maintenant. La suite, c'est RTL. Bonsoir avec nos grands invités qui arrivent. L'actrice Alexandra Lamy, le réalisateur Édouard Bergeon. On va aussi demander à notre spécialiste environnement de nous rejoindre.
Et on a plein de choses à vous raconter sur le drame de la déforestation. C'est le sujet de La Promesse Verte, le thriller coup de poing en salle après-demain.
RTL, bonsoir. Julien Cellier.
RTL, bonsoir jusqu'à 20h.
Allez, RTL, bonsoir. Votre deuxième heure autour de la table, les compagnons de soirée, Cyprien, Isabelle, Stéphane Boutsock, notre Mister Ciné. Salut Stéphane.
Bonsoir tout le monde.
Nous accueillons maintenant nos grands invités. Nous allons passer un moment ce soir avec la comédienne Alexandra Lamy. Bonsoir.
Bonsoir.
Avec le réalisateur Édouard Vergeon. Bonsoir.
La Promesse verte sort cette semaine au cinéma. Édouard, c'est votre deuxième long métrage après Au nom de la terre qui parlait de la détresse du monde paysan qui racontait l'histoire tragique de votre famille.
Cette fois-ci, vous nous proposez un thriller écologique, c'est haletant, c'est puissant, dans les forêts primaires d'Asie. Vous filmez le combat d'une mère face au lobby, face au gouvernement. Cette mère, c'est vous, Alexandra Lamy. Votre fils est condamné à mort en Indonésie. Il est accusé injustement de trafic de drogue. Pourquoi ? Parce qu'il a voulu s'opposer à la déforestation. Extrait de la bande-annonce.
Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont attaqué un village, une piégée, voilà. Tout ça, c'est à cause de leur putain d'huile de palme.
On en est partout. Tout le monde en croque, y compris dans les hautes sphères. Alors l'huile de palme, on n'y touche pas.
Ce matin, la cour d'appel de Jakarta vient de confirmer la condamnation à mort de Martin Landreau.
Édouard et Alexandra, l'intrigue se déroule en Indonésie, mais vous avez tourné en Thaïlande. Pourquoi ? C'était trop dangereux ? C'était impossible de tourner en Indonésie ?
On ne leur a même pas demandé. En fait.
Vous n'avez pas osé.
Alors, j'y suis allé en repérage pour prendre des photos, pour filmer le cousin germain qu'on voit dans le film, qui est celui qui vous ressemble, Laurent Houtan, là.
Il a la même couleur de poils.
Tout le monde va croire que je suis roux et j'adore les roux. Hein. Je ne dis pas ça pour les.
C'est très émouvant que de le croiser et de partager un moment face à lui, de manger de l'eucalyptus. Donc oui, j'ai eu la chance de croiser un orang-outan à son état sauvage. Et puis quelques plans de la forêt primaire que j'ai pu filmer, quelques plans de Jakarta. Sinon, on a tourné en Thaïlande. Pourquoi ? Parce que la Thaïlande est un pays accueil du cinéma. Nos Américains, quand ils veulent filmer un palmier, ils vont souvent aux États-Unis et il y a les mêmes décors en fait. Donc on a pu filmer, tout
sans froisser le gouvernement local. Voilà.
Exactement. Tout
en revanche, je pense qu'on n'ira plus en vacances en Indonésie. Non, je crois que
c'est fini.
Mais ce qui est passionnant, c'est que vous vous êtes évidemment inspiré d'histoires vraies. Dans le film, on voit des mercenaires qui tuent, qui brûlent des villages pour ensuite exploiter la forêt. Dans la vraie vie, on sait qu'il y a eu des soupçons d'assassinat sur les activistes aussi dans ce pays. C'est tiré de choses concrètes.
Dans ce pays et dans le monde, il y a un activiste qui disparaît tous les deux jours. Un activiste qui défend l'environnement tous les deux jours sur la planète. Donc beaucoup en Amérique du Sud, mais aussi en Asie du Sud-Est.
C'est un film qui est très fort, et comme vous l'avez dit, à travers ce thriller, on découvre l'ampleur de la catastrophe écologique en cours, parce que quand on veut verdir nos carburants, quand il y a de l'huile de palme dans nos placards ici en Europe, c'est un bout de terre qui disparaît à l'autre bout du monde. Pour que nos auditeurs aient toutes les clés en main, on accueille dans ce studio Virginie Garin, qui est notre spécialiste environnement à la rédaction. Bonsoir Virginie. Vous avez visité des exploitations justement d'huile de palme, alors dans un pays quasi voisin, la Malaisie. Racontez-nous déjà cette expérience, ça ressemble à quoi ?
Effectivement, je suis allée côté malaisien, donc juste à côté de la forêt qui est dans le film. Quand on arrive, on est frappé en avion. C'est un pays qui est recouvert de palmiers. Vous faites des kilomètres en voiture, à droite, à gauche, vous n'avez que des palmiers. Donc c'est assez impressionnant. Avec un énorme problème, évidemment, pour la biodiversité. Vous parlez des orangs-outans. J'ai vu aussi un de vos cousins, Julien, au sommet d'un arbre. Malheureusement, il n'y a pratiquement plus d'arbres de la forêt primaire. Et il reste aujourd'hui à peu près 10 000 orangs-outans. 90% ont déjà disparu.
Ouais, parce que les palmiers, ils ne sont pas là à l'état naturel. Justement, ils sont plantés pour faire de l'huile. Voilà, faut expliquer aussi. On a des chiffres sur l'impact de cette déforestation à travers le monde ?
Alors, on est dans l'une des trois grandes forêts au monde, avec l'Amazonie et le bassin du Congo. C'est un désastre pour le climat, parce que les palmiers captent beaucoup moins le carbone que les forêts primaires. Et on estime qu'en 20 ans, la moitié de la forêt indonésienne a disparu, la moitié. Puis il faudrait aussi parler des conditions sociales, parce que les gens qui travaillent dans les palmeraies sont payés 3-4 euros, pas plus, par jour.
Et Virginie, on est d'accord, l'huile de palme aujourd'hui, il y en a absolument partout.
Oui, parce que c'est une huile qui est pratique et pas chère, donc on en trouve dans ce qu'on mange, on en trouve dans les cosmétiques, mais surtout on en trouve de plus en plus dans les moteurs, enfin dans les voitures et les avions. C'est devenu une énergie. Donc effectivement, c'est plus seulement l'intérêt alimentaire, mais c'est devenu un carburant.
Et plus, excusez-moi, pardon, je rajoute aussi, parce que je trouve que c'est vachement bien fait dans le film, c'est qu'il n'y a plus du tout de bruit, donc plus du tout d'êtres vivants dans les forêts de palmiers, donc ça veut dire qu'il n'y a absolument plus d'êtres vivants.
Il n'y a plus de biodiversité.
Plus du tout de biodiversité, exactement. Et ça, c'est très impressionnant, je trouve, moi qui viens de la la campagne et quand d'un coup tu entends ce silence justement et tu te dis waouh, ça veut dire que les prochains c'est nous.
On utilise beaucoup d'insecticides, de pesticides,
d'engrais,
donc c'est ça. Les oiseaux par exemple.
Donc les palmiers c'est pas un arbre, c'est une plante.
Si c'est un arbre, c'est une plante.
C'est une plante.
C'est une plante effectivement.
Donc c'est comme le soja.
Commencez pas à vous embrouiller tous les deux parce que attendez, on parle d'un sujet extrêmement grave. Alors si en plus vous vous embrouillez, alors vous êtes d'accord, ça veut rien dire cette histoire.
Mais c'est une monoculture, donc il y a que ça.
Et en tout cas, c'est lors du repérage où cette scène n'était pas écrite et à un moment donné, il y a une séquence avec Martin, le fils de Carole, qui est à mes côtés, qui vient voir une activiste et elle lui dit « Listen carefully, écoute bien, qu'est-ce que tu entends ?»« J'entends rien, il n'y a plus rien. » Et en fait, on était en train de repérer, on a demandé à éteindre les moteurs des véhicules dans cette palmeraie, c'est vraiment un océan de palmiers, comme vous le disiez. Et là, silence total. Et c'est là que cette séquence est née.
Il y a une prise de conscience, Virginie, quand même, localement, il y a des progrès, aussi mince soit-il.
Alors, il y a une prise de conscience internationale, parce qu'il y a une pression quand même dans les accords sur le climat, et l'Indonésie, la Malaisie sont en train quand même de ralentir le rythme de la déforestation. Et puis vous avez des règles, par exemple, l'Europe vient de décider de ne plus importer d'huile de palme qui provient de récentes palmeraies, donc on a coupé la forêt avant 2020, là on peut, mais après 2020, on ne peut plus. Donc il y a quand même une évolution qui fait que, voilà, il y a un petit peu d'espoir. Ouais. Puis il y a un label aussi, il y a une huile de palme un peu plus responsable. Et vous savez, les fabricants de Nutella, par exemple, de ces produits alimentaires qui ont été pointés du doigt par les associations, eh bien, ils se sont dit qu'il faut faire quelque chose, il faut réagir. Donc, il y a ce fameux label qui est soutenu par des organisations écologiques. J'ai vu des gens de Greenpeace qui trouvaient que c'était plutôt bien. Mais ça reste encore très, très perfectible, effectivement.
Edouard Bergeon.
Ça peut servir et ça sert l'activisme, puisque le Conseil d'État, l'année dernière en France, a interdit les importations d'huile de palme pour intégrer dans les biocarburants, nos biocarburants. Pour
l'instant. Oui, Total voulait mettre de l'huile de palme dans nos voitures et finalement, ils n'ont pas pu le faire. C'est effectivement interdit.
Et c'est effectivement ce que vous filmez aussi dans le film, parce que le film s'appelle La Promesse Verte. Et l'huile de palme, on se rend compte que c'était une concurrence pour l'huile de colza, alors qu'on a, pendant des décennies, dit à nos paysans allez-y, à fond sur l'huile de colza.
En fait, Stéphane le disait tout à l'heure, mon premier film parle du monde agricole, Au nom de la terre, de l'histoire de mon père agriculteur. Et pendant le tournage d'Au nom de la terre, je suis tombé sur une manif d'agriculteurs, un reportage. Justement, ils manifestaient devant cette raffinerie Total, puisqu'ils avaient été encouragés dans la culture de colza pour faire du gasoil vert, comme mon père il y a 30 ans. Là, les souvenirs sont remontés pour moi. Et là, ils manifestaient pour bloquer ces importations d'huile de palme indonésienne et malaisienne. C'est comme les manifs d'agriculteurs qu'il y a eu ces dernières semaines pour bloquer les routes, les ronds-points. En gros, ils disaient quoi ? Notamment, n'importons pas du bout du monde ce qui a un coût social, environnemental, qui est déplorable, alors que nous, vraiment, on nous met des normes incroyables. Donc, en fait, c'est moi, pour tout vous dire, qui ai appelé les agriculteurs il y a quelques semaines.
Non, mais même pire, souvent, ça provient aussi de gangs criminels, il faut aussi le dire. Ouais. C'est-à-dire que même tous les bois exotiques qui sont importés, etc., souvent sont quand même tenus par des gangs criminels mafieux. Donc, c'est vrai, quand même.
Vous avez découvert, vous, Alexandra Lamy, l'ampleur de cette catastrophe à l'autre bout du monde en lisant le scénario, parce que nous, je plaide coupable, moi j'ai découvert beaucoup de choses en regardant votre film.
Oui, mais c'est pour ça que je dis on est un peu des artivistes, moi je suis un peu comme vous. En plus, pourtant je viens de la campagne, mais c'est vrai que l'écologie, on ne pouvait pas dire qu'on... Enfin, surtout même à mon époque, on n'en parlait pas plus que ça en fait. On faisait un peu attention évidemment, mais pas plus que ça. Et c'est pour ça que je trouve génial, c'est qu'avec, justement avec le cinéma, avec la culture, quand on voit ça, en plus l'émotion avec le thriller et ce fond-là, bah, ça te met un petit rat dans la tête et t'as envie de rentrer chez toi. Tu fais un peu comme Carole dans le personnage qui ouvre ses placards.
Vous avez tenté de le faire, ça, chez
bien
vous
sûr, c'est la première chose qu'on fait. Moi, dès que j'ai lu le scénario, je me dis qu'est-ce que c'est que ces histoires-là? Comment ça, il y a de l'huile de palme autre que dans cette pâte à tartiner? Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Et finalement, on regarde ça, puis plus ça va. C'est pour ça que je trouve que c'est intéressant, parce qu'on a un vrai thriller, parce que c'est vraiment un vrai thriller. Mais avec un film comme ça, tu rentres chez toi et t'as envie de t'informer. Et puis tu t'informes, et puis tu rencontres des choses, et puis tu te dis, bah tiens, peut-être que moi aussi, il faut que je fasse un peu plus attention.
Bon, engagé, hein.
Non, mais c'est ce que j'allais dire. Non, mais on vous sent, voilà, on vous sent habité et en même temps.
Du coup, je me suis, j'ai écouté. C'est ça que sert l'art. Parfois, tu te dis, oui, c'est vrai. Il faut peut-être regarder un peu plus. Et puis, en fait, il y a un truc aussi, c'est qu'il faut casser nos habitudes. C'est-à-dire qu'on a maintenant, on a tout qui nous est facile. On fait en sorte que la vie soit facile et on n'a plus de contraintes. Et quand on a des contraintes, ça nous fait créer. Et moi, parfois, sur des tout petits trucs, je me dis, tiens, allez, je vais me coller des contraintes. Allez, je vais arrêter un peu le plastique. Je vais me faire le tri. Je vais arrêter le coton. Je vais arrêter ci. Je vais arrêter le plastique. Et après, t'es très content. Tu dis, peut-être que ça va pas changer le monde, mais t'es content. Mais ça, dire que, voilà.
Ça nous surprend pas, votre engagement, parce qu'on vous a déjà vu sur les réseaux sociaux pousser des coups de gueule parce que la rivière à côté de chez vous, dans les Cévennes, elle était dégueulasse. Et vous habitez dans une région qui fait partie de ces régions en France qui sont en première ligne face au dérèglement climatique. Il y a eu des inondations meurtrières.
J'y étais ce jour-là, samedi, je peux vous dire, c'était horrible. J'avais jamais vu ça. Honnêtement, bah, on a eu quand même 9 morts. Hein. C'est une catastrophe. Moi, franchement, j'avais jamais vu ça. C'était d'une violence. Et effectivement, comme je suis dans une région, quand même, on fait hyper attention. On parlait de ça, mais moi, c'est pareil. Juste de l'autre côté de ma colline, moi, ça me fait une peine immense. On a des mines. Qu'est-ce qu'on a fait à l'époque des mines? Eh ben, on a fermé les portes et point barre. Résultat, alors là, ça se déverse dans toutes les rivières. Ça, on en parle très peu, mais c'est une catastrophe. Moi, ça m'arrache le cœur de me dire que cette rivière, elle est complètement polluée. On ne peut plus du tout l'utiliser. C'est même dangereux parce qu'on utilise de l'eau. Forcément, voilà, pour les gens qui habitent autour, eh ben, ils sont obligés d'acheter de l'eau parce que cette rivière, elle est complètement polluée et il ne se passe rien.
On vous sait, on vous sent, on vous entend investi. Est-ce qu'on peut rester quand même optimiste? Il y a une phrase dans le film qui résonne fort, c'est quand on veut changer le monde ne se laisse pas faire. Il est où le curseur de l'espoir dans tout ça?
Toi, t'as un mot qui est pas mal, c'est consommateur. Ouais. Je pense qu'aussi, si demain... Moi, mes parents étaient commerçants. Ils m'ont toujours dit, le client est roi. Si demain, le client, il a décidé que nous n'achèterons plus d'huile de palme, nous n'achèterons plus de choses qui sont importées et qui déforestent. Attendez, je vous dis ça, je fais des leçons, je suis pas mieux que tout le monde. Hein. Franchement, c'est parce que je... Regardez la cigarette. Moi, j'ai fait partie des... Enfin, pardon, je fais un truc un peu bizarre, mais des générations, voitures fermées, fenêtres fermées, tout le monde fumait des clopes, Gaulois sans filtre, tu voyais Michel Piccoli dans un hôpital qui fumait clope sur clope, il disait, je sais pas pourquoi il est mort d'un cancer du poumon, je comprends pas. Bon, tout le monde s'est rendu compte qu'effectivement, la cigarette, ça tue. Et là, d'un coup, on te dit, bon, à partir de maintenant, on va arrêter de fumer dans les lieux publics. Moi, j'étais vraiment genre, quoi ? En mode un peu ado. Comment ? Ça veut dire qu'on ne pourra plus fumer dans les bars, ni dans les boîtes de nuit ? Bah ouais. Et aujourd'hui, vous regarderez, même quand elle est... Ah, voilà, j'ai arrêté de fumer, mais quand on... aujourd'hui, les fumeurs, même dans des lieux privés, demandent à sortir pour aller fumer. Donc ça veut dire qu'on est capable de casser aussi notre quotidien, nos gestes quotidiens. On est capable de le faire. Simplement, voilà, il faudrait qu'on nous oblige et qu'il faut le faire. Et il faut l'imposer, quoi.
Vraiment. Même chez moi, je fume à la fenêtre, alors.
Les ONG sur l'huile de palme, elles ont vraiment fait pression, elles ont vraiment changé le comportement des industriels. Donc il y a vraiment, les consommateurs peuvent agir en achetant différemment.
Ouais, complètement.
Et là, c'est vraiment un bon exemple. Ferrero, Nutella, ils ont décidé d'utiliser une huile de palme un petit peu différente.
Oh, je vais pouvoir acheter du Nutella et sauver des forêts, c'est merveilleux.
Consommateur, c'est effectivement un joli terme. Alexandra Lamy, Edouard Bergeon, vous êtes nos grands invités. La promesse verte, formidable, thriller écolo, c'est mercredi au cinéma et dans une seconde avec vous, on va parler du tournage parce que visiblement il faisait très chaud, il n'y avait pas beaucoup de maquillage. Tout de suite.
RTL, bonsoir.
Merci.
Julien Cellier.
RTL, bonsoir jusqu'à 20h.
RTL, bonsoir, la deuxième heure, nos grands invités ce soir, Alexandra Lamy et le réalisateur Edouard Bergeon pour La Promesse Verte, le thriller écolo en salle cette semaine au cinéma.
Alors on l'a dit, vous avez tourné en Thaïlande et vraiment les images de la forêt, de la nature sont absolument sublimes. C'est un film qui fait réfléchir, mais c'est aussi du cinoche, Edouard. On sent à quel point cette nature-là, elle vous a chopé, que vous avez eu plaisir à la mettre en scène. En fait.
Bah déjà, j'ai grandi dans la nature. Ouais. Alors c'était bien en France, mais j'ai grandi au milieu des champs et des bois et des arbres. Et alors c'est vrai que quand on est allé en repérage dans ces parcs nationaux en Thaïlande, il y a des arbres que j'ai voulu filmer, j'ai pas réussi à voir leur cime. D'ailleurs, on les voit dans le film et ils transpercent le ciel, ces arbres. Ils sont connectés d'ailleurs au ciel dans ce qu'on raconte avec un chaman qui dit que ces arbres, c'est ses aïeux en fait.
Vos mots, ils me font penser à ceux d'un homme qui était notre invité dans ce studio il y a quelques semaines. Il s'appelle Mundije Kepanga. C'est le chef d'une tribu en Papouasie-Nouvelle-Guinée où jusqu'à un tiers du territoire a été exploité. Il était venu nous voir ici à Paris pendant la dernière COP et il était venu nous parler de la déforestation. Écoutez-le.
Ces forêts primaires sont vraiment essentielles pour nous parce qu'en fait, on y trouve tout ce qui nous permet de vivre. D'abord, notre pharmacopée traditionnelle, nos plantes médicinales, de la nourriture, bien sûr, des arbres qu'on va utiliser pour faire du feu ou pour construire nos maisons. Ces forêts, ce sont des forêts qui sont nées lorsque le monde est né, au début du monde. Ce ne sont pas des forêts qui ont été plantées par les hommes. Donc pour nous, elles sont vraiment... On a cet environnement chevillé au corps. Nos ancêtres nous ont appris que les hommes sont les frères des arbres. Si les arbres disparaissent, les hommes vont disparaître à leur tour. Et c'est le message que je souhaite faire passer aujourd'hui, parce que je pense qu'il concerne l'humanité tout entière.
Ces mots, ils résonnent, non, Alexandra Lamy, Edouard Bergeon?
Ah bah oui, c'est sûr. Non, mais c'est sûr. Effectivement, enfin, tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure, mais c'est vrai que ça... Puis ça, moi, je suis un peu comme Idéfix. Quand on tue des arbres, ça me fait pleurer. Donc, non, ça, c'est sûr que c'est une catastrophe. C'est quand même notre poumon. Écoutons un peu cette jeunesse, elle a raison. Il faut absolument qu'on avance très, très vite maintenant, qu'on bouge très vite.
Et alors, pour le tournage, vous étiez donc en Thaïlande et c'était en plein pic de chaleur. Ça devait être très éprouvant.
C'était horrible. C'était horrible. Et pour que ça se voit bien à l'image, on vous rajoute du gras. Alors, je ne sais pas si vous imaginez alors, quand il fait 50 degrés.
On voit beaucoup
les
t-shirts trempés.
Il y a la sueur naturelle, mais en plus, sur les visages...
Sur les visages, on nous rajoute du gras. Cette peau hyper hydratée, maintenant, que j'ai pendant une dizaine d'années, je pense.
Et en plus, Alexandra, vous ne vouliez pas être maquillée.
Non.
Pour montrer vraiment une maman telle qu'elle est quand elle est au bout du rouleau et que...
Oui, mais parce que déjà, je me disais... Même je me suis fatiguée. Je me disais, cette femme, elle fait des allers-retours pour essayer entre... on le voit, puisque c'est quand même un thriller. Hein, donc, elle est vraiment en train de négocier. Elle essaie de trouver une solution pour faire sortir son fils. Je me disais, donc, évidemment qu'elle n'a pas le temps de se maquiller. Je pense qu'elle est fatiguée. Donc, c'est évidemment une femme qui ne dort que par épuisement. Elle ne va pas se dire, tiens, je vais me coucher à 22h ce soir. Comme ça, je vais être en pleine forme pour demain matin. Donc, évidemment que ce n'est pas possible. Donc, oui, on s'est fatiguée. Et c'est vrai que la chaleur joue aussi. On sent cette chaleur écrasante. Pardon, vas-y.
Oui, il faisait chaud. Très chaud, moi je redoutais la chaleur. La scène qu'il y a dans le tribunal, on y passe bien 12 heures et il fait un ressenti 50 degrés, il n'y a pas de clim.
Ouais.
Donc, mais tout ça, c'était dur, mais ça participe.
Enfin, on a eu quand même sur une feuille de service une grosse chaleur, danger de mort. Tu fais, ah ouais, d'accord.
La production est obligée de l'appliquer. Ouais.
Mais vous savez ça mieux que nous, Alexandra. Les acteurs, les actrices, l'image, le maquillage. Faut aussi accepter d'y aller sans rien. Vous voyez ce que je veux dire?
Ah oui, bien sûr. Non, mais ce qui est important, c'est...
C'est pas courant.
Non, mais... Enfin, je sais pas, mais en même temps, c'est important de raconter aussi un personnage. Donc, c'était...
D'être crédible jusque-là aussi, quoi.
Oui, bien sûr. Puis comme je suis très, très belle naturellement, je me suis dit, ça devrait passer.
Mais j'allais vous le dire, vous êtes très bien dans le
merci. Film. Merci. J'attendais qu'on le dise. Personne ne l'a dit.
Mais c'est pour ça que je suis venu à la rescousse à la fin, parce que là...
Pourquoi Alexandra Lamy, Edouard Bergeon?
Vous voyez pourquoi, vous l'entendez, non? non, mais on parlait d'incarner une Française ordinaire. Allez, ce qui est ordinaire chez elle, c'est qu'elle est extraordinaire. Enfin, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle est ordinaire. Enfin, voilà, tout ça, quoi. C'est qu'elle est géniale et qu'elle est... puis elle est populaire. Et on adore, nous, tous les deux, ce beau mot, populaire. Voilà, c'est une belle liste.
C'est une belle liste, effectivement. Vous êtes effectivement ultra populaire, Alexandra.
Et très belle dans le film.
Et pourtant, voilà. Si on remonte...
Là aussi, non?
Mais bien sûr, mais tout le temps.
Encore plus.
C'est pas très doux un compliment, Stéphane. Un poil maladroit.
C'était bien.
Un poil maladroit.
C'était bien.
Merci. Ouais, il arrive après moi.
Très bien. Donc on l'a dit, vous êtes ultra populaire. Et pourtant, si on remonte le temps, à quoi ça tient une carrière? Attention, instant vintage. En préparant l'émission, on a découvert que quand vous étiez petite, à Alès, avant de devenir actrice, vous vouliez être gardienne de chèvres.
Oui, avec ma meilleure amie Magali. Alors c'était très drôle parce qu'on gardait les chèvres et sa mère avait une librairie, donc on avait des pièces de Molière, etc. Donc on jouait toutes ces pièces-là. Bon, souvent on rentrait sans les chèvres parce qu'on les avait perdues dans la forêt. Bon, elles revenaient quand même. Mais c'est marrant parce que moi je voulais être gardienne de chèvres. Alors c'était à l'époque, j'avais 12-13 ans, peut-être que j'aurais changé après. Mais elle voulait être comédienne. Et en fait, les choses se sont inversées. Elle est infirmière, mariée à un chevrier, ils ont une ferme, et c'est moi qui suis actrice, donc c'est drôle.
Et quand vous avez dit à vos parents, moi je veux être actrice, je veux monter à Paris et faire carrière dans le cinéma, ils ont dit quoi?
Stress. Voilà. Énorme stress. Bah, surtout à l'époque, en plus. Alors, c'était vraiment tu montes à Paris, quoi. c'était la capitale. Non, et puis en plus, avec un métier qui faisait peur, où il y a les clichés, mais qui existaient quand même un petit peu, mais effectivement, avec la peur d'être dans une grande ville, tu connais personne, comment tu vas faire pour ce métier? Même moi, quand je suis arrivée à Paris, j'avais un vertige. Je me suis dit, mais comment je vais faire? Ça va être super dur. Mais bon, ils ont cru en moi. J'avais un an. Il fallait vraiment que je bouge.
Il fallait réussir en un an.
Oui, il fallait. En tout cas, j'ai fait beaucoup de théâtre dès le départ. Mais voilà. Non, mais c'était super.
Et ça a fonctionné. Alexandra Lamy, Edouard Bergeon, vous êtes nos grands invités. La promesse verte, le thriller écolo, c'est mercredi au cinéma après-demain. Dans une seconde avec vous, on va parler cuisine. C'est la guinguette d'Angèle Ferremac qui arrive. Salut Angèle.
Bonsoir tout le monde.
Qu'est-ce qu'on mange ce soir?
Ce soir, on mange des nouilles de riz servies avec des petits légumes sautés et une sauce à base d'huile de sésame, de sauce soja et de citron.
Et puis une playlist événement. Salut Steven Mallory.
Salut à tous. Vous avez les abdominaux bien, bien durs. Là, on va faire de la danse du ventre. Shakira est de retour. Elle s'est confiée à RTL. Elle va nous parler notamment de Voldemort. C'est Gérard Piqué, elle l'appelle comme ça aujourd'hui.
Elle est belle. Ah oui, l'ancien footballeur, son ancien mec.
Mais oui. Je l'adore, Shakira.
Julien Cellier, Alexandre de Saint-Aignan et Cyprien Signy.
RTL, bonsoir.
Julien Cellier, Alexandre de Saint-Aignan et Cyprien Signy.
RTL, bonsoir.
La deuxième heure avec nos grands invités Alexandra Lamy et Edouard Bergeon. On passe en cuisine.
RTL.
Des cornichons, de la moutarde, du pain de beurre, des petits oignons, des cornichons.
Bonsoir.
Et place à la guinguette d'Angèle avec Angèle Ferremag, la chef de la guinguette d'Angèle, rue Coquillard, Paris 1er. Qu'est-ce qu'on mange ce soir, Angèle? Enfin, nous, on a commencé à manger hein, pendant la réclame. Oui. C'est absolument délicieux.
Ce soir, je vous donne la recette toute simple de nouilles de riz avec des légumes sautés qu'on peut manger chaud ou froid.
Et alors, la recette.
Froid, exactement. Alors, donc on va commencer par faire chauffer, par faire cuire les nouilles de riz. Donc c'est simple, on fait bouillir une grande casserole d'eau, on jette les nouilles de riz dedans, on les laisse cuire selon les instructions parce que parfois on a des tagliatelles de riz qui sont un peu plus épaisses.
Plus ou moins larges, oui.
Moi j'aime bien quand elles sont très fines, comme je vous sers ce soir. Ensuite, donc c'est environ 3 minutes. Ensuite, on les égoutte, on les rince sous l'eau froide pour stopper la cuisson. Parce que nouilles de riz trop cuites et gluante, mais transparente.
C'est comme le riz, on stoppe la cuisson aussi. Bah oui.
C'est fait à base de riz, exactement. Ah ouais. Ensuite, donc, on réserve nos nouilles de riz rincées et on s'occupe des légumes sautés. Donc là, on prend des légumes de saison. Moi, ce soir, je vous ai choisi que des blettes. Mais en fait, on peut mettre du chou, des carottes, du brocoli, des épinards. Vraiment, mettez ce que vous voulez. On les coupe grossièrement et on les fait sauter. Donc, dans une grosse poêle, idéalement un wok. On fait chauffer un petit peu d'huile de sésame ce soir. Oui,
on le sent, le goût de l'huile de sésame. Oui,
c'est sûr.
À feu moyen. Et là, on va ajouter les légumes. On les fait sauter à feu assez vif pendant 3-4 minutes. Ensuite, on coupe le feu et on prépare la sauce. Donc, dans un petit bol, on va mélanger de l'huile de sésame, de la sauce soja, du jus de citron. Et si vous voulez, vous pouvez même râper un peu d'ail et un peu de gingembre. Mmh. On mélange. Et puis ensuite, c'est tout, on assemble. Donc si vous le servez froid en salade, vous mettez simplement les nouilles de riz avec les légumes dessus. Si vous le servez chaud, vous ajoutez les nouilles de riz aux légumes sautés dans le wok. On le fait cuire encore quelques minutes, on ajoute la sauce, on la verse dessus. Et ensuite, pour servir, on sert les nouilles de riz avec les légumes dans l'assiette. Et on peut garnir avec un peu de coriandre fraîche, des cacahuètes hachées.
Ah, les cacahuètes hachées, bah ouais. Et puis là, c'est froid, c'est très rafraîchissant. C'est
froid, ça marche très bien.
Pour l'été, c'est super.
Et en fait, ça, ben même à toutes les saisons, parce qu'en fait, ça combine donc déjà des saveurs asiatiques avec des légumes frais. Enfin, c'est très bon. Et puis, ça fait un plat équilibré qui réunit tout le monde, parce qu'en plus, ce soir, il est sans gluten et vegan.
Ah,
et vous pouvez ajouter...
inviter nos amis.
Exactement. Voilà, merci.
C'est bon, c'est simple et c'est sain, comme votre livre aux éditions Marabout. Merci Angèle.
Merci.
Alexandra Lamy, Edouard Bergeon, dites-nous, vous, c'est quoi votre guinguette, votre plat fétiche du dimanche, celui que vous faites à la maison, si vous deviez tenir une chronique cuisine.
Celui qui me donne le marché, en fait. Voilà, tu vois ce qu'il y a, ce que la saison te donne, en fait. Et puis,
Il faut être capable d'être inspiré, Cyprien, s'il fait le marché.
Je ne suis pas très inspiré, moi.
En fait, il n'y a rien de plus simple que cuisiner, en fait. C'est laver des légumes, les jeter dans une poêle, mettre des herbes aromatiques, un filet d'huile d'olive, du sel, du poivre.
Un petit steak, quand même, non?
Ou pas, un steak du poisson.
Du poisson, voilà.
Mais voilà.
Mais nous, on a un point commun avec Edouard, c'est marrant, on se disait, on n'a jamais acheté de plats transformés, de produits industriels. Mais en fait, parce qu'on n'a pas du tout habitué. Moi, ma mère, elle a toujours cuisiné. Et pourtant, elle travaillait autant. Moi, pareil, j'ai toujours cuisiné. Je dis jamais, tiens, qu'est-ce que je vais acheter? Je me dis, tiens, qu'est-ce que je vais me faire à manger? Et puis, effectivement, alors peut-être aussi parce qu'on est à la campagne, donc on a souvent les légumes locaux. Après, moi, j'aime bien. Truc,
vous avez des plats signatures, non?
Moi, qu'est-ce que je fais? Moi, j'aime bien les curries.
Ouais, puis ça dépend de l'époque, vraiment. Quand il y a des tomates, je n'arrête pas de faire des tomates farcies avec les herbes du jardin.
Il faut attendre un peu encore, là.
Ouais, il faut attendre, mais
on sort d'une période un peu courge.
Non, mais le chou,
un peu long.
En ce moment, les petits choux,
il y a 1000 choux, tu les fais de 1000 manières dans une cocotte.
Mais là, les premières fraises, là.
Ouais, ça y est, ça commence. Vrai, là. Elles arrivent là, ça y est.
Toute première.
Ne regardez pas comme ça, je vous jure que c'est vrai. Celle de Bretagne, moi j'en ai acheté, celle de Bretagne, elles sont déjà très bonnes.
Les meilleures, celles de Bretagne.
Et je sais.
Stéphane. Merci Alexandra Lamy, merci Edouard Bergeon d'avoir été nos grands invités, d'avoir passé un petit moment avec nous dans RTL Bonsoir aujourd'hui. Courez voir La Promesse Verte, c'est mercredi, c'est après-demain au cinéma.
Merci.
Merci beaucoup.
RTL Bonsoir. Alors, that's the power of love.
Allez, la playlist de Steven Bellery. Maintenant, on parle musique, playlist événement. Steven, ce soir, rencontre avec une star de la pop, la colombienne Shakira.
Là, je connais tout, là.
Angèle aussi, visiblement. Ouais.
Énorme tube.
Mais oui.
À 23 ans après ce tube mondial, Shakira vient de publier Las Mujeres Ya No Lloran. Les femmes ne pleurent pas, c'est ça. C'est son 12e album, retour en forme de renaissance. La chanteuse a accepté de répondre aux questions de RTL.
Ouais, grâce aux copains de Fun Radio, notamment Sohan, qui a fait le déplacement à Miami, là où la star vit désormais Shakira.
C'est pas vous !
N'avait pas publié d'album depuis 7 ans, une longue absence durant laquelle elle a dû faire face à deux épreuves. La chanteuse a divorcé du footballeur Gérard Piqué. Elle l'atomise d'ailleurs dans un titre titre de l'album. Et Shakira a été accusée par le fisc espagnol de fraude. L'affaire s'est réglée avant le procès avec un énorme chèque. La revoilà donc au rayon disque avec Las Mujeres Ya No Lloran, soit Les Femmes Ne Pleurent Plus en français. Disque féministe dans lequel l'artiste essuie ses larmes et tourne la page.
Je crois qu'historiquement, les femmes, on nous a appris à pleurer quand le scénario nous l'autorisait seulement. On nous a appris à rester dignes, élégantes face à la douleur, sobres face à la souffrance, cacher nos émotions devant nos enfants, à la société. Et je crois que personne n'a le droit de dire à quelqu'un comment il doit guérir, comment il doit soigner ses blessures, comment il doit sécher ses plaies. Donc je pense que le slogan « Les femmes ne pleurent plus » exprime cela. Pleurer est un besoin physiologique, humain, psychologique, et nous le faisons tous. Mais il y a un moment où l'on essuie ses larmes parce qu'il faut avancer. Je crois que la femme d'aujourd'hui pleure, mais ses larmes se transforment en diamants. Parce que nous apprenons de la douleur, parce que nous la transformons en résilience et en force.
Como donde y cuando.
Alors la thématique de la femme forte, c'est d'ailleurs un fil rouge du nouvel album de Shakira.
L'interprète de Waka Waka raconte s'être révélée face à l'adversité.
Je ne suis pas aussi fragile que je pensais l'être. J'ai toujours passé ma vie à craindre que des choses m'arrivent qui me sont finalement arrivées tout en même temps et que j'ai surmonté. Oui, mes jambes ont faibli, je suis tombée dans la boue, je me suis relevée et j'ai réalisé que je peux surmonter beaucoup de choses. Mais je n'ai pas seulement trouvé cette force en moi, je l'ai vue refléter chez d'autres femmes. Elles m'ont montré leur force aussi et m'ont montré la mienne. C'est pourquoi cet album est dédié aux femmes.
Et Shakira qui n'a glissé qu'une seule chanson en anglais dans son nouveau disque.
Oui, avec la volonté de revenir à ses racines, la pop latino chantée en espagnol.
C'est un plaisir de chanter en espagnol, c'est ma langue maternelle. Chanter en anglais est aussi une aventure à chaque fois que je le fais. Écrire en anglais est un défi intellectuel et écrire en espagnol, c'est la liberté totale.
La liberté totale.
À 47 ans, Shakira a écoulé plus de 100 millions d'albums. Laundry Service, paru en 2002, cumule plus de 15 millions d'exemplaires à lui seul. La chanteuse colombienne fait partie de ces rares pop stars à ne pas voir sa cote de popularité faiblir grâce à une remise en question artistique. Elle guise par exemple quelques titres très électro comme... Envoyé à Gérard Piqué, elle voulait lui offrir une Twingo. Ici remixé par le DJ Tiesto, cumule plus de 2 milliards de streams. Shakira confie vouloir évoluer avec son époque.
C'est la mission fondamentale de l'artiste, se polir comme un diamant brut. Briller de plus en plus. Et avec chaque album, continuer à créer, à expérimenter, à chercher. Je m'aime davantage en tant qu'artiste aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Je ne sais pas ce que pensent les gens, mais je crois qu'il y a eu une évolution. Parfois, je regarde en arrière et je me dis, mais comment se fait-il que j'avais des fans? Mais c'est une question de temps. C'est comme lorsqu'on regarde la photo de son passeport et que l'on se dit, oh, mais qu'est-ce que je pensais? Ce qui me vient à l'esprit aujourd'hui, l'inspiration qui me vient en tant qu'artiste ne me serait jamais venue à l'âge de 18 ans. L'artiste se nourrit de chutes et parfois, je pense que peut-être j'ai dû passer par tant de choses ces deux dernières années pour que je puisse terminer cette œuvre.
Las Mujeres Ya No Lloran, le nouvel album de Shakira vient de sortir, elle a promis qu'elle reviendrait donner quelques concerts bientôt.
Vous avez un excellent accent d'espagnol.
Pas trop perdu, mais je comprends plus trop ce qu'elle dit.
Parlez bien anglais, parlez bien espagnol, parlez même breton, vous êtes totalement
comic beer.
Merci beaucoup Steven Bellery pour cette playlist événement avec les confessions RTL de Shakira, l'une des reines de la pop musique. On marque une petite pause et ensuite le grand quiz de RTL Bonsoir. On vous envoie en thalasso ce soir, en tout cas si vous gagnez le jeu.
Au Flamand Rose à Canet en Roussillon.
RTL, bonsoir.
RTL, bonsoir. Julien Cellier, Alexandre de Saint-Aignan, Cyprien Signy.
Le grand quiz.
Le voici pour bien terminer l'émission. Le grand quiz de RTL, bonsoir. A gagné Cyprien.
Un week-end pour deux en 4 étoiles au magnifique hôtel Thalasso et Spa Les Flamants Roses. C'est à Canet en Roussillon, tout proche de Perpignan.
Cyprien, les règles.
6 questions, 4 bonnes réponses et c'est dans la poche. Tout a été dit depuis 18h et en plus, vous avez droit à 3 jokers avec Alex et Julien.
Ouais. Un auditeur toulousain, c'est ça ce soir?
C'est Bruno qui nous appelle. Bonsoir Bruno.
Et bonsoir à toute l'équipe.
Bonsoir Bruno, le bel accent toulousain, c'est chantant, ça fait du bien.
On essaye de vous envoyer un peu de soleil, même si on l'a pas eu trop ces derniers jours.
On va essayer de vous envoyer justement un peu plus bas au soleil et en thalasso. Est-ce que vous êtes prêts?
Et allez, on est parti.
On y va, première question.
À 18h10, notre invité face à l'événement était le spécialiste du terrorisme Jean-Charles Brizard. On a parlé de cette nouvelle branche de l'État islamique. Enfin, nouvelle pour nous, puisqu'elle existe depuis 2015, vous a-t-il expliqué. D'où vient cette branche? D'Afghanistan, de Syrie ou du Pakistan?
Là, je vais demander un joker à Cyprien.
Bah alors, je vais vous dire que c'est l'Afghanistan.
Ah, vous répondez aux questions et vous posez les questions. Les règles sont faites pour être contournées. Allez, deuxième question.
À 18h40, on était avec l'immense Eric Cantona, qui sera à l'affiche d'une série événement demain soir sur M6. Il nous a aussi parlé de son rapport à la musique, et il raconte qu'un jour en bateau, il a mis une chanson à fond et ça a fait venir une baleine. Quelle chanteuse il a mis dans les enceintes? C'est pointu. Maria Callas, Yvette Horner ou Annie Cordy?
On va dire Maria Callas.
Bien joué, ouais,
c'est une bonne réponse. Troisième question.
Allez, Eric Cantona, toujours, nous a raconté comment il a découvert Léo Ferré et surtout, qui lui a fait découvrir Léo Ferré. Est-ce que c'est Sir Alex Ferguson après un entraînement à Manchester, Giroud dans le car avec les joueurs d'Auxerre, ou il est tombé sur un disque par hasard lors d'un déménagement?
Demander à Alex, j'aurais dit Giroud, mais je préfère demander à Alex
Oui, oui, Giroud, je pense que c'est une bonne réponse.
C'est une bonne réponse.
Dernière question.
Allez, dernière question. Si vous avez bon, vous partez en voyage. Allez. Dans les dessous de l'actu à 19h07, on vous a fait découvrir les dessous du concours du meilleur apprenti de France. Quel est le surnom du meilleur apprenti de France? Est-ce que c'est MOF, MAF ou MILF?
À tout hasard, on va dire MAF. Vraiment à tout hasard.
Le hasard fait bien les choses.
C'est gagné.
Bravo Bruno.
Bravo.
Eh bien, merci beaucoup, c'est super sympa.
Vous partez en thalasso, vous savez avec qui vous allez partir, c'est pour deux personnes.
C'est-à-dire que mes parents et ma mère ont eu des problèmes de santé, donc je pense que je vais en faire cadeau à mes parents.
C'est super.
Ils n'ont pas pu bouger depuis presque 2 ans, donc je pense que.
Ils s'appellent comment vos parents?
Alain et Michel.
Eh ben, on embrasse Alain et Michel, c'est un joli cadeau que vous leur faites. Merci Bruno.
Ben, Bruno, c'est un bon fils, on lui offre une montre RTL et un mug RTL.
Voilà,
quand même,
ça, vous les gardez pour vous, Bruno.
Ah, ben c'est cool, ça c'est pour moi, tout à fait.
Merci Bruno d'avoir joué avec nous. À bientôt du côté de Toulouse.
Bonne continuation, bonne soirée.
Merci
à bientôt.
Bruno.
Allez, RTL, bonsoir, reviens demain, 18h-20h pour deux. Nouvelles aventures. François Civil tiens sera avec nous demain, le comédien. Pour l'heure, on laisse place à Flavie Flamand à Jour J sur RTL. Bonsoir Flavie.
Bonsoir à tous. Ce soir, c'est une émission exceptionnelle que l'on vous propose. Notre invité Jean-Christophe Notin a ouvert les portes d'un lieu qui d'ordinaire est fermé à double tour. C'est la DGSE, le service des renseignements extérieurs français. Il a rencontré les agents, il les a interviewés et il nous raconte ça dans un instant. À tout de suite.
À tout de suite.
RTL.